Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos droits de 18h à 20h comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, restez bien avec nous tout au long de l'émission parce que là on va se régaler, encore beaucoup d'actu. Un grand match, la Coupe de France reprend ses droits aussi ce soir, donc on va se régaler pendant 2 heures en très bonne compagnie comme d'habitude avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît,
ça va et vous monsieur le sélectionneur?
T'as passé une bonne soirée? Ouais, t'as analysé la liste.
Ah bravo.
Pareil.
Bah on l'a concocté ensemble hein, écoute.
Oui oui oui, non mais bon après c'est des fois
c'est toi qui décide, mais moi je suis en accord total avec ta liste.
Ouais ouais, non, ça m'a passé, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. Pour expliquer.
T'as relancé la mode de la casquette.
Le pourquoi du comment.
Surtout, c'est incroyable.
Écoute, ouais, y en a un qui l'a bien connu, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut Jean-Mi.
Quoi, la casquette?
Ah bah oui, la mode de la casquette. La casquette pour les coachs.
Nous, on avait quoi?
Le béret.
Le bonnet, nous. Le béret béarnais.
Ouais. Bah écoute, il y en a un, il l'a pas.
Bonjour messieurs.
Bon.
Bonjour Jean-Michel.
Il y en a un, il l'a pas, le béret béarnais, il a autre chose, c'est
Steve. Et la casquette. Il a la casquette. L'homme a la casquette. Multicasquette.
Eh oui.
Proche du bonnet.
C'est vrai que Steve, il a une tête à casquette. C'est vrai.
Ah ouais.
Ouais.
J'ai surtout une tête de con.
Non, pas du tout.
Ça va pas, non?
Pas du tout,
Steve. On voulait pas.
On voulait pas le dire. Non, mais c'est la première minute, ça.
Non, mais Steve, non.
Il y en a qui portent mieux. Hey, toi, vrai. Jérôme, tu vois, la casquette, c'est pas trop ton délire, Jérôme.
T'as plus une tête à bonnet, toi, Jérôme, c'est vrai.
Ouais.
Qu'à casquette, ouais.
Bon, après,
ouais.
Je suis multifonction.
Il a surtout une tête qu'on retient pas, en fait.
Je suis multifonction. Ouais, ouais.
Tu vois, c'est un peu. Ouais. Tu l'as vu, tu dis putain, mais je l'ai vu ou pas? Peut-être tu l'oublies un petit peu.
Ah, c'est vrai, ouais. Ouais.
C'est vrai que quand tu le voyais jouer, tu t'en rappelais, c'est vrai.
Peut-être.
C'est vrai.
Quand je me balade, j'ai pas l'impression qu'on m'a oublié, mais bon, après, peut-être que.
Pas sur Paname. Que sur Paname, hein. Et que sur Paname. Et tu sors de votre rocade, là, votre périph, là.
Rocade. Ouais. On fera un tour ensemble, Stevie.
Magnifique Roten sans flamme ce soir.
En voiture sans permis.
Vous le savez, c'est votre émission préférée le lundi, du lundi au vendredi, de 18h à 20h. Et la semaine prochaine,
oui.
Une opération spéciale, avis de recherche. Si vous êtes un ancien professeur de Pascal Olmeta, une ancienne petite amie de Jean-Michel Larquet, un ancien coéquipier de Christophe Dugarry.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ils ont marqué votre vie, vous avez marqué la leur, vous réservez vos places au 32-16. On organise les retrouvailles sur RMC la semaine prochaine, de lundi à vendredi, avis de recherche. N'hésitez pas.
Ils peuvent appeler dès maintenant. Hein.
Vous avez des comptes à régler avec Jérôme, Jean-Michel, Manu Petit, Christophe Dugarry. C'est le moment de le faire sur RMC. N'hésitez pas. Une ardoise impayée. Vous venez comme ça.
Oui.
Vous êtes contrôleur fiscal. Il vous manque quelques informations. Vous venez les chercher comme ça à partir de lundi. Rendez-vous donc dans Antenne sans flamme. Réservez vos places au 32-16. Hein. On attend vos témoignages. Ça a bien marché hier. Continuez de les laisser au 32-16 et sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424. T'es confiant, Jérôme?
Ah bah, je suis confiant. Après, j'espère être content de retrouver les personnes.
Les personnes, il y aura plusieurs personnes.
Imagine, je suis pas content.
Bah là, ouais.
Comment ça se passe? Oui.
J'ai l'impression qu'il va y avoir un filtre à l'engagement au 32-16.
Ah non, non, filtre, y a pas, c'est le principe de RMC.
T'es sûr,
Stevie, je suis au courant de rien.
Bah rien.
Me concernant, je suis au courant de rien.
Et on a commencé à bosser.
Sur le reste,
sur le reste, tout.
Ah ben non, mais on est obligé de bosser, on bosse comme des chiens.
Actuellement, on cherche les professeurs de Jean-Michel, mais c'est pas facile. Hein. On galère un peu.
La RTBF.
Bah, on va voir. Écoute,
on va
changer de fusée d'épaule.
Paris, allô,
beaucoup
Paris.
Sur du répondeur.
Il répond pas. Bon, en tout cas, rendez-vous lundi prochain. Avis de recherche, on va se régaler. Ouais, à 19h.
Moi, j'ai eu des instituteurs et ça se voit. Il y en a. Ça sent
pas 500 ans.
Même s'ils sont plus là.
Ça, c'est bon, Jean-Michel. Excellent.
Ouais, c'est vrai.
À 19h, Roten se chauffe ce soir. Safonov Chevalier. Est-ce que la concurrence est terminée? Ça y est, le Russe a été installé. Il a fait les deux derniers matchs. Il a été bon à Strasbourg. Il a de nouveau stoppé un penalty. On en parlera avec vous, supporters parisiens, à 19h. À 18h45, allô Jérôme. Ce soir, c'est Marseille-Rennes, 8e de finale de la Coupe de France. Rod Fanny, ancien joueur des deux clubs qui a connu des crises à l'OM, sera avec nous. Il pourra nous parler de l'actualité de ces deux clubs. Et puis, soyez là surtout à 18h30 pour le procès du championnat saoudien et de son fonctionnement ridicule. On va tout vous expliquer. On a un procureur, mais deux avocats pour le championnat saoudien. Donc j'ai hâte d'assister à ce moment. On va se régaler à 18h30. Mais pour l'instant, il est 18h05 et tout de suite, De Zerbi doit prouver, Jérôme, qu'il n'est pas le maillon faible.
Vous allez regarder le maillon faible.
Ah, j'adore ça, candidats. En fait, s'il y a un joueur dans la surface et qu'on est quatre à le regarder, qu'il n'y en a pas un qui marque, c'est la faute de qui ? La faute du coach ? Non, c'est pas la faute du coach. Donc à un moment donné, il faut prendre les responsabilités.
Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis.
On voulait construire 3 ans avec un entraîneur puissant et qu'il pouvait incarner la leadership.
Ils ne se connaissent pas et pourtant ils partagent une même passion, la bagarre.
Corruption dans des championnats de merde.
Ils vont devoir jouer en équipe.
Quand je fais des causeries avec lui 45 minutes, tu vois un mec qui transpire, tu vois un mec qui parle avec son cœur. Quand je dis que c'est pour moi le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il a toutes ces qualités-là.
Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros.
De Zerbi, il est très touché par la situation actuelle. Il n'a qu'une envie, c'est de réussir chez nous et de renverser la tendance.
De quoi sont faits traditionnellement les œufs et les lapins cachés à Pâques dans le jardin?
Je suis presque prêt de parler français. Hein.
À chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible.
Je ne suis pas prêt encore.
Huitième de finale de Coupe de France ce soir entre l'OM et Rennes, 21h10 sur RMC, match en direct du Stade Vélodrome. Marseille sous tension depuis une semaine, l'élimination en Ligue des Champions face à Bruges, le nul contre le Paris FC qui n'a rien arrangé. Rappelons les deux objectifs désormais sur la fin de saison marseillaise, la qualif pour la Ligue des Champions via le championnat. Et donc cette Coupe de France à aller chercher, c'est Mehdi Benatia qui l'avait dit à l'issue de la défaite à Bruges. Une défaite ce soir serait considérée comme un traumatisme. Hier, une réunion a été organisé entre le club et les responsables des différents groupes de supporters. Parlons-en avec Florent Germain qui est avec nous en direct de Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut les amis.
Alors Flo, tu nous as donné toutes ces infos. Union sacrée avec les supporters, mais obligation de passer et d'accéder au quart de finale ce soir.
Voilà, alors match de la dernière chance ou Union sacrée, on verra. Mais en tout cas, obligation de gagner parce que c'est le match et le résultat qui vont décider de l'ambiance en tribune. Les leaders de groupe, ils avaient à cœur d'effectuer ce rendez-vous. Ils étaient environ 5 membres par assaut de supporters qui donnent souvent le ton, vous le savez, en tribune à Marseille. On m'a décrit un échange plutôt calme. Ça a duré 1h30, 1h45 environ. Il n'y a pas eu de tension, pas d'insultes. Les représentants de l'OM, c'était quasiment tous les joueurs. Le staff, Roberto De Zerbi, les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les joueurs qui ont pris la parole, Balerdi, Aubameyang, Kondogbia et Timothy Weah, qui a également dit un petit mot. Roberto De Zerbi, il a avoué qu'il vivait mal la situation, qu'il comprenait la colère des supporters. Et d'ailleurs, écoutez, juste avant en conf de presse, il nous avait confirmé saisir et comprendre l'amertume des fans de l'OM.
On est en tort.
Et quand on a fauté, il faut savoir se faire pardonner. C'est le cas de nombreux stades, mais pour le Vélodrome, c'est particulier. C'est comme un miroir. Quand tu donnes tout, tu reçois. Et si tu n'es pas bon, la fronde revient comme un boomerang. Il faudra être prêt, même s'il y a des sifflets qui font mal. On doit être costaud et faire face. C'est tout.
Voilà, donc une réunion qui a permis à l'OM d'avoir la conviction que le Vélodrome sera derrière son équipe, au moins dans le début de match. Il n'y aura a priori pas trop de banderoles, pas tant de sifflets que cela. On va vous encourager, mais effectivement, petit conseil à l'OM, mieux vaut gagner et éliminer Rennes ce soir.
Flo, on a quelques petites infos sur la compo ou pas encore ? C'est trop tôt ?
Bah écoute, non, c'est jamais trop tôt pour avoir des petites indiscrétions. Mais écoute, on sait que Jeffrey Delange sera dans le but puisque il a été annoncé au gardien remplaçant qu'il jouerait la Coupe de France. Aguerd est forfait, donc on se dirige vers une titularisation de, évidemment, Léo Balerdi aux côtés de Medina, de Pavard et probablement de Weah sur un côté. Timber et Heubier au milieu de terrain. Une forte probabilité qu'on voit Nouaneri, Greenwood et peut-être Peixão titulaire. Et en pointe, petit doute entre Guiri et Aubameyang.
Merci Flo, tu as été parfait. Marseille-Rennes, ce match est-il vital pour Roberto De Zerbi, 32-16, pour participer avec nous, Jérôme?
Plus que ça, parce que pour moi, ce match, on parle souvent de tournant. Alors des fois, c'est un peu tôt à cette période-là de l'année, mais là, c'est un vrai tournant dans la saison de l'Olympique de Marseille. Alors déjà, elle a pris un rôle catastrophique depuis plusieurs jours. Ce qui s'est passé en Ligue des Champions, on va pas revenir dessus, on en a déjà fait. Mais la claque reçue, c'est une énorme claque et il faut s'en remettre. Comme quoi, ils ont du mal à s'en remettre parce que le match contre le Paris FC, tu dois le gagner 10 fois.
Tu mènes 2-0.
Allez, 9 fois sur 10 quand tu t'es aussi supérieur à ton adversaire comme ça. Et que c'est aussi un coup d'arrêt pour les perspectives des objectifs du club de faire mieux que l'année dernière. Ou aussi bien. Donc la deuxième place, elle s'échappe de plus en plus. La première, j'en parle même pas. Mais c'est surtout qu'il faut regarder dans le rétro, parce que dans le rétro, tu as une équipe qui est à égalité aujourd'hui. Et même si on a l'impression que le cinquième du championnat est un peu largué, ils sont à 7 points, tout va vite dans ce championnat, parce qu'il y a des équipes qui sont capables, et on l'a vu, de faire des séries. Et puis surtout, à Marseille, c'est Manu qui dit ça souvent, le Mistral n'est jamais très loin. Mais là, c'est plus qu'un Mistral, du moins. Là, c'est un ouragan.
Et même quatrième, c'est Cata, Jérôme.
Non, mais c'est un ouragan. Et c'est pour ça que ce match de ce soir, il est crucial pour déjà l'entraîneur. Parce que pour moi, il a perdu beaucoup de crédit sur les dernières semaines et surtout sur le début de l'année, avec autant de changements, nous vendre ta façon de jouer et de voir qu'il n'y a pas forcément de répondants chez les joueurs, et surtout encore moins de progression sur tes joueurs individuellement, mais aussi collectivement, que des compos. Il y en a eu tout, ça s'est jamais ressemblé, les compos
match.
D'un match à un
compos
autre.
Différent à
et encore ce soir, parce que par la force des choses, et c'est pas moi qui décide, mais c'est eux, les magiciens qui créent cette équipe, ils vont te dire que c'est normal d'avoir 5 nouveaux joueurs au mercato d'hiver, comme c'était normal d'avoir 13 nouveaux joueurs au mercato d'été, parce que ils ont renforcé l'équipe, parce que c'est normal, la stabilité, que nous, on est là juste pour faire en sorte, dans les critiques, de foutre un petit bordel dans le vestiaire, parce que c'est ce qui a été dit hein, plein de fois, comme quoi nous on n'a pas besoin des critiques des médias ou nos critiques et moi mes critiques perso aussi pour foutre le bordel dans le vestiaire, parce que on voit que les joueurs ils s'entendent pas, les joueurs ils se bagarrent, les joueurs ils s'envoient chier, après t'as l'entraîneur qui les prend, on en a parlé hier, qui les prend un peu en faisant de la câlinothérapie, et puis qui les dégage comme Murillo par exemple.
Puis nous, ça n'a jamais été notre but,
et d'autres. Non, mais bah non. Nous c'est pas le but. Nous, on est là matchs, juste pour analyser. Et je suis désolé encore de dire, et même si ça déplaît aux gens qui sont en place à Marseille ou ceux qui sont dans le club de Marseille, parce que tu sais, t'as des fonctions dans les clubs aujourd'hui, t'as l'impression que les mecs, parce qu'ils ont des fonctions importantes dans les clubs, qui connaissent mieux le football que les mecs qui l'ont pratiqué pendant 30 ou 40 ans, tu vois. Mais ils connaissent mieux le football que toi. Donc eux, ils t'ont expliqué il y a quelques mois que c'était normal de changer autant une équipe qui a fait finir deuxième l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, en effet, eh ben, de match après match, on voit qu'il y a des fluctuations dans les performances. Donc c'est des fois 3-4 matchs très bien. Et ça a été le cas, et on l'a dit. Et puis après, il y a une baisse de régime, une grosse, hein. Grosse, où là, tu prends tarte sur tarte. Là, en ce moment, tu prends tarte sur tarte. Mais le problème, c'est que la dernière ligne droite, avant qu'elle arrive, il y a déjà des échéances qui ont sauté.
Mais déjà ce soir.
Les échéances de la Ligue des Champions.
Oui.
Allez, tu la balayes. Les échéances de finir aussi bien que l'année dernière en championnat, je pense que maintenant, tu peux la balayer. Parce que bon, c'est pas grave de dire que l'OM sera pas champion aujourd'hui et que l'OM va avoir de grandes difficultés à finir deuxième du championnat. Donc c'est la réalité. Par contre, ils vont avoir de grandes difficultés à finir sur le podium déjà. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a un constat d'échec. Et le constat d'échec, ça se traduit encore dans le départ de certains joueurs qui viennent d'arriver. Pourtant, ils sont arrivés il y a 6 mois. Aujourd'hui, on leur a montré la porte de sortie. Alors nous, on nous dit que c'est financièrement, c'est normal, et qu'il y en a 5. Mais moi, c'est ça qui me choque. Il y a 5 joueurs qui viennent d'arriver. Et dans ces 5 joueurs-là, t'as un gamin, Noah Neri, d'accord,
ouais.
Où tout le monde dit ouais, c'est une pépite, mais en fait il a 18 ans le gamin. Ouais. Alors il a bien commencé son premier match, mais lui t'as l'impression que lui maintenant il a la carte de Zerbi. Il jouera tous les matchs et on se démerde. Et puis au milieu de terrain, Timber qui vient d'arriver, maintenant c'est un magicien. Comme Vermeeren il y a 6 mois, c'était un magicien. Mais en fait, il y a
plein de choses qui vont montrer encore aujourd'hui que la stabilité est importante. L'instabilité, c'est voué à l'échec. Et que la je ne souhaite pas à Marseille, mais sans déconner, le match de ce soir, s'il n'est pas crucial, s'ils se font sortir contre Rennes, c'est terrible la pression sur les joueurs et sur le club. Mais s'ils se font sortir contre Rennes, mais qu'est-ce que tu vas vendre
Restons sur le coach, Jean-Michel. L'importance de ce match pour Roberto De Zerbi et son aventure marseillaise, parce que là, lui aussi, il passe une sacrée étape ce soir.
Oui. Sauf qu'il va te dire que son rôle et sa situation n'est pas importante par rapport au club. Les clichés habituels, les pépites qui viennent d'arriver. Pendant ce temps, on te dit que on se plaint parce qu'il y a de l'instabilité, mais on fait tout pour qu'elle existe.
Pour qu'elle reste bien en place.
Ouais, si tu veux, à un moment ou un autre, moi, je veux bien les discours. Et au risque de vous surprendre, ce match est important pour l'Olympique de Marseille, pour essayer de continuer l'aventure. Aujourd'hui, je ne sais pas si en éliminant une équipe de Rennes qui vient quand même de prendre
une déroute à Monaco,
4-0.
Ouais.
Qui vient d'en prendre une déroute à Monaco, où effectivement ceux qui ont parié ce score-là, ils ont dû quand même gagner beaucoup d'argent parce que j'avais regardé Monaco ces derniers temps. Si tu me dis que Monaco est capable de battre 4-0 une équipe de Ligue 1, cette équipe de Ligue 1, elle doit être bien triste quand même. Parce que Monaco ne nous a pas régalé.
Non, après, ils ont le droit de faire un bon match, hein, de temps en temps.
Rennes, c'est deux défaites de temps en temps. Journée.
Bon, mais on risque de vous dire. Moi, je pense que le souffle de la crise est très présent dans la nuque de tout le monde. Parce que le match prochain, tu vas au parc. Mmh. C'est bien ça, le match de championnat. Pendant ce temps-là, ton adversaire direct pour la troisième marche du podium se déplace à Nantes où jusqu'à présent, tout le monde a à peu près gagné.
Oui.
Et que à l'issue, à une quinzaine de matchs de la fin, tu n'es plus sur le podium de Ligue 1.
Mais là, vous vous projetez alors que le rendez-vous de ce soir est crucial déjà. C'est là où je ne comprends pas votre raisonnement.
Il est crucial. Et moi, je.
Mais sortir d'abord, en coupe dès les huitièmes de finale, ça serait terrible pour l'OM ce soir.
Ils se sont déjà fait sortir par Annecy après avoir sorti le Paris Saint-Germain.
Ouais, mais là, ils n'ont pas le choix. Franchement,
s'ils
se font sortir Jean-Michel ce soir,
mais
tu vas vendre quoi derrière sur les prochains mois? Tu as pris 5 nouveaux joueurs avec un effectif qui est fait pour jouer sur plusieurs tableaux. On est d'accord, plusieurs compétitions. Ah, oui. Tu n'auras plus que le championnat.
Mmh. Ouais, bah justement, tu vois, je vais aller un petit peu à contre-pied, moi, Jérôme. Je me dis, tu vois, je pensais un petit peu, puis ça m'a fait réfléchir, je pensais un peu comme toi là, puis toi, ça m'a fait réfléchir, toi, en début de semaine. Et je me dis, en fait, le socle commun, le socle de trois, là, le trio Longoria, Benassia et De Zerbi, honnêtement, il est quand même ultra puissant parce qu'avec tout ce qu'ils vivent, que ça soit ces derniers temps ou ces dernières semaines, et voire depuis le début de la saison, moi je les trouve quand même assez forts tous les trois. Je les trouve quand même assez unis, ce qui est quand même, et faut leur allouer ça, c'est que c'est très rare dans un club et c'est très rare surtout à l'OM. Moi je reviens au projet d'il y a un an et demi. C'est le projet de 3 ans. C'est pour ça qu'en finale, avec les déconvenus qu'ils ont.
Non, pas ça,
c'était encore avant. Mais tu vois, moi je trouve qu'au final, le projet reste quand même très cohérent dans la direction et la direction technique, administrative et technique. Ils sont en train de construire un club.
Cohérent, toi. Et finalement,
Jean-Michel, tu vois, nous on se tarde quand même toutes les semaines à dire que les clubs, c'est la valse des entraîneurs.
Là, c'est la valse des joueurs.
Ça, c'est encore autre chose. Jean-Michel, ça, c'est encore autre chose, la valse des joueurs. Ils sont en train de créer.
Le contraire.
Qui te dit ça?
Mais eux, me semble que De Zerbi, c'est plein de l'instabilité.
Mais pas de la direction. De l'instabilité des joueurs. Ils sont en train de créer quelque chose. Ils sont en train de trouver la bonne recette. Ils sont en train de trouver la bonne recette pour que. Et moi, je dirais que ce soir, au final, bon, cette année, le seul objectif pour moi primordial, là, à partir de maintenant, c'est la qualification obligatoire pour la Ligue des Champions l'année prochaine et pas le tour préliminaire.
Que le match de ce soir n'est pas.
Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Je pense que.
Par contre, je me dis qu'au final, ils sont en train de créer à l'OM. J'en étais pas sûr.
En Ligue des Champions, c'est...
Ah bah là, par contre, c'est catastrophique. Là, je suis d'accord avec toi.
Si tu te fais sortir au Vélodrome dans le contexte actuel, par Rennes, huitième de finale de Coupe de France.
Mais ça y est, il est renforcé. Regarde, il est renforcé avec depuis. Non, mais depuis ces deux derniers quelques jours, il est renforcé. Il n'a pas été viré après la disqualification.
Il n'est pas licencié. Et alors,
donc, mais c'est pas une question. Là, tu te dis, au final, tous les trois.
Tu poses la question à Longoria. Est-ce que vous préférez gagner la Coupe de France ou est-ce que vous préférez être qualifié en Ligue des Champions ?
Non, mais on a
compris. Je connais la réponse.
Mais moi, je t'ai juste, imaginons le contexte à Marseille s'il y a élimination ce soir. Parce que les supporters ont dit on va vous soutenir ce soir.
Mais ça va être le feu, mais comme tout le temps, dans tous les clubs. Dès que t'as une déconvenue, t'as tout ça. C'est quand même le feu. Et puis rien n'empêche qu'au moment. Toi, tout à l'heure, tu disais mais qu'est-ce qu'on va leur vendre jusqu'à la fin de la saison ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va leur vendre jusqu'à la fin de la saison ? Mais qu'est-ce que l'OM vend depuis 4, 5 ans, toutes les saisons ou en cours de saison, à part la qualification en Champions League. Qu'est-ce qu'ils vendent?
Oui, bah,
coupe, qu'est-ce qu'ils vendent à
supporters? Au soir de Bruges, les supporters vont être déçus en te disant qu'il faut aller la chercher.
Non, mais parce que cette année, t'as une opportunité qui est quelque part qui est un peu galvaudée, c'est que le PSG n'est plus dans la boucle. Le PSG n'est plus dans la boucle en Coupe de France. Sauf que tu crois pas que toutes les équipes qui sont à aujourd'hui en 8e, ils se disent pas la même chose que l'OM et comme tous les supporters de l'OM.
Mais l'OM est censé être le mieux placé.
Tu prends Rennes. Tu les prends pour, en fait, on les prend pour des nazes, en fait.
Mais c'est pas
à toi que je pose la question. C'est comme ça. C'est qu'en fait, on a la même idée du match contre Bruges. Mais vous regardez le championnat belge, Bruges, c'est pas des baltringues non plus.
Oui,
par Rennes, je suis désolé, autant de compétences, autant de
Steve, le problème.
N'oublions pas quand même que depuis le début de la saison, cette équipe de l'Olympique de Marseille à domicile n'a pas maîtrisé les matchs contre,
exactement,
à l'exception du match contre le Paris Football Club où il y a eu une différence conséquente. Les matchs de l'OM en championnat contre Toulouse, contre Lyon, contre Nantes, contre Angers.
Par contre, on sait très bien que le public marseillais, comme beaucoup de clubs en France, ils seront indulgents quand même avec le comportement et l'attitude des joueurs.
Mais ils en ont rien à faire. C'est là que Steve, moi,
je suis pas d'accord avec toi. L'avantage du foot, c'est que ça se change tout le temps.
Steve, moi, je vais te dire parce que je l'ai vécu dans les clubs à haute pression, au Paris Saint-Germain, à Marseille, c'est la même chose. C'est des ferveurs particulière, c'est pour ça qu'on dit que c'est les deux plus grands clubs français dans tous les cas, quels que soient les objectifs du début de saison, quelle que soit la construction de l'effectif. Tout ce que tu dis au départ dans ces clubs-là, c'est que quand tu démarres l'année, les gens, ils veulent faire tourner le compteur, ils veulent gagner des trophées. D'accord ? Donc le problème, c'est qu'à Marseille, ça fait X années qu'on dit ça et ils n'y arrivent pas. Que cette année, on nous a vendu, et depuis 2 ans, on nous a vendu, alors après, à tort, parce qu'aujourd'hui c'est à tort, ça se confirme pas, on nous a vendu un cador sur le banc, limite comme Guardiola et Mourinho, d'accord ? De Zerbi, arrivant avec 9 adjoints. Avec une construction d'équipe stable, de l'équipe dirigeante. Pablo Longoria, Mehdi Benatia. Il n'y a pas de problème. J'étais le premier à dire, c'est bien pour l'Olympique de Marseille de donner de la stabilité déjà dans l'équipe dirigeante et beaucoup de garanties à l'entraîneur. Pas de problème, il l'a eu. Depuis un an, la première année, très bien, il était dans les clous, même s'ils n'ont rien gagné. L'objectif, c'était la qualif en Ligue des Champions. Et Jean-Michel, t'as raison. C'était l'objectif pour que financièrement, l'OM s'y retrouve. Mais derrière, quand tu vends autant de mouvements, où tu nous dis, en début d'année, c'est pas moi qui l'ai dit, on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on est très content aujourd'hui, avec ce qu'on a apporté comme expérience.
T'as vu les entrées et les sorties financièrement.
Non, mais d'accord.
Ils sont gagnants.
Oui, mais
ils sont gagnants sur un mercato d'hiver.
Je suis d'accord avec toi.
Sauf que quand même, il faut la rallouer ça aussi des fois.
Oui, mais les paroles dans ces clubs-là, c'est important quand tu es des dirigeants et l'entraîneur. Et quand tu ramènes des joueurs avec beaucoup d'expérience qui ont gagné, tu ne peux plus te cacher. Et quand tu dis aujourd'hui, bien sûr qu'ils peuvent perdre contre Rennes, c'est pas prendre Rennes pour des peintres. Rennes, ils sont capables. Et de toute façon, Nantes l'a très bien fait de gagner au Vélodrome dernièrement.
Et il y a des équipes qui l'ont.
Donc Rennes est capable d'éliminer l'OM. Par contre, une défaite de Rennes en Coupe de France, Je dis pas ça va passer inaperçu parce que ils auront aussi des comptes à rendre avec leurs actionnaires, mais il y a moins de pression qu'à Marseille. Évidemment. Marseille aujourd'hui, le problème c'est qu'avec tous les résultats et toutes les déceptions qu'on a depuis 6 mois, ils ont pas le droit à l'erreur. Et pourtant on parle, t'imagines que on parle d'un 8e de finale.
C'est Euzerbi qui a pas le droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui, s'il y a une défaite ce soir combiné avec une défaite au Parc des Princes, bah je pense que l'affaire, l'aventure s'arrêtera là pour Deserbi.
Bah c'est sûr.
Et réponse ce soir 21h10, Marseille-Rennes, 8e de finale de la Coupe de France, à suivre sur RMC, l'After Live à partir de 20h. L'autre 8e de finale du jour, c'est Reims-Le Mans, les deux équipes en forme de la Ligue 2 à 20h30, à
et
suivre également sur RMC.
Et attention à l'ambiance du stade ce soir, parce que encore une fois, je te dis, je veux pas comparer ce qui est pas comparable, mais je me souviens de certains matchs au Parc des Princes où les supporters, ils nous disaient oh, on est avec vous, mais vous avez pas le droit de vous rater. Oh là là, moi je dis bon courage pour les joueurs, parce que pour préparer ces matchs-là, c'est vraiment pas simple.
Allez, dans un instant, Roten sans flamme revient, Jérôme Roten, Jean-Michel Larquet, Steve Savidan, et on ouvre le procès du championnat saoudien et de son fonctionnement complètement ridicule. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir. C'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, le Allo Jérôme avec Rod Fanny.
On
le retrouve, Rod. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment.
On est ravis de le retrouver. Ancien Marseillais, ancien Rennais. Il a tout connu à l'OM. Hein. Il a connu les périodes d'euphorie, les titres gagnés, les crises.
C'est vrai.
Les lofts. Il a tout connu, Rod Fanny.
Il a fait quelques années.
Il pourra nous parler de son expérience marseillaise. Mais tout de suite, on a un excellent procès dans Roten sans flamme.
RMC, Roten sans flamme.
La tête de Cristiano ! Pardon, Chris ! Pardon, je t'ai critiqué ! Je suis nul ! Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde ! Sinon, on est un gros con ! Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué !
Le procès de Roten sans flamme.
On embrasse Fred Hermel. Bonjour, c'est Fred, tous les week-ends, hein, samedi matin et dimanche matin. Alors, Cristiano Ronaldo s'est mis en grève en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'Or qui a boycotté le match de championnat de son club Al Nassr. La raison de sa colère, c'est le transfert gratuit de Karim Benzema à Al Hilal. Al Hilal, c'est le leader du championnat saoudien. Il y a un point d'écart entre les deux clubs après 19 journées de championnat. Précision importante pour que tout le monde comprenne le contexte saoudien. Le PIF, le fonds d'investissement public saoudien, détient 75% des parts des quatre plus gros clubs du pays. Al Hilal, donc, le nouveau club de Benzema. Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Vous pouvez rajouter Al Ahly et Al Ittihad, qui est l'ancien club de Benzema. Ronaldo regrette donc une concurrence déloyale parce que cet hiver, Al Hilal a investi 44 millions d'euros pour recruter, avec notamment l'arrivée donc de Karim Benzema, alors que le club de Ronaldo, Al Nassr, s'est contenté de recruter un milieu de terrain irakien. Il n'y a pas eu d'argent investi par le PIF pour renforcer Al Nassr. On ouvre donc le procès du championnat saoudien ce soir et de ce fonctionnement ridicule avec un procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
On a deux avocats du championnat saoudien. Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et on a Damien au 32-16 qui va nous rendre le verdict. C'est lui le juge ce soir. Salut Damien.
Salut messieurs, bonsoir. Salut Damien.
Sois le bienvenu. J'espère que tu vas écouter les plaidoiries attentivement. Parole au procureur, monsieur Larquet. Qu'est-ce que vous pensez donc du fonctionnement de ce fameux championnat d'Arabie Saoudite ?
Oh, ça va aller très vite, ça va aller très vite, puisque je vois que dans ce championnat, eh bien, la multipropriété, elle est intranationale, c'est-à-dire que dans un même pays, on peut être le propriétaire de plusieurs clubs. Donc évidemment, l'équité sportive est parfaitement respectée. Il y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que les joueurs, et tant pis pour eux, ils le savaient peut-être pas quand ils ont signé, on leur a peut-être pas dit, on leur a peut-être caché. Mais les joueurs sont considérés comme des objets. C'est-à-dire que, en fonction de l'humeur du propriétaire, bah tiens, tu étais à droite, mais finalement, ça me fait envie que tu ailles à gauche, donc tu vas y aller, on va pas te demander ton avis. Et pendant ce temps-là, j'entends des cris d'orfraie de Cristiano Ronaldo, qui est, je ne sais pas s'il est dans les quatre qui sont dans la même multipropriété.
Si, bien sûr. Bien sûr.
Bon, et, bon. Et donc, à un moment ou un autre.
C'est pour ça qu'il est énervé, d'ailleurs.
Oui, à un moment ou un autre, quand les joueurs, aujourd'hui, ils ne font pas de cadeaux, je ne veux pas dire ça, mais les joueurs sont pris pour. Je vais être vulgaire, ils sont pris pour du bétail, et bien ils vont à droite et à gauche au gré des humeurs des dirigeants, ça me choque. Excusez-moi, je pensais que la dignité humaine était un petit peu plus présente chez ces joueurs-là, et qu'ils auraient dû s'apercevoir qu'ils n'étaient que des têtes de gondole qu'on promenait dans le magasin au gré des humeurs des uns et des autres. Voilà. Ça me choque. Ça me choque que les joueurs soient véritablement pris pour des boîtes de conserve. Vraiment.
Parole à la défense, Maître Roten.
Oh bah non, mais moi les bras m'en tombent quand j'entends que Monsieur Larquet nous explique que les joueurs sont pris pour des boîtes de conserve. Mais en Europe, c'est quoi en fait? Parce que on sait tous aussi dans le football européen. Alors c'est pas la même formule, hein, c'est pas la même chose, chaque continent, si tu veux, a le droit de mettre certaines règles en place, et ça leur appartient. Et c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas en foot US. Le foot aux États-Unis,
MLS, ouais.
Non, que ça soit la MLS, que ça soit le basket,
la NFL,
que
ça
soit,
tout ça, voilà, la NBA.
Ils ont une façon de gérer leur club qui est complètement différent à ce que nous on vit en Europe. Et pour autant, on n'est pas là, à leur donner des leçons.
J'ai le droit de non. pas aimer quand même.
Non, oui, mais je te dis pas que t'as pas le droit. Mais par contre, tu peux pas dire que les joueurs sont utilisés, c'est du bétail. C'est la même chose en Europe. Du moins, la valeur marchande d'un joueur. Moi, j'ai l'impression que quand je jouais et qu'on appartenait et que j'appartenais à un club, j'avais une valeur marchande. C'était du bétail. S'ils avaient envie de te vendre parce que besoin d'argent, ça a été le cas quand j'étais à Monaco, par exemple, eh ben ils m'ont vendu. Ça a été le cas quand j'étais plus jeune. C'est la même chose. Et pour autant, bah, même si t'as ton mot à dire pour savoir où tu vas, est-ce qu'il y a le cas des joueurs en Arabie Saoudite? Attention, hein, Karim Benzema, il a jamais dit « Oh non, je veux pas aller là. Ah bah si, tu vas aller là. » Là, oui. C'est différent. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc après que... En effet, il y a un propriétaire pour les quatre plus grands clubs. Il n'y a pas de problème. C'est leur façon de gérer.
Il n'y a pas de problème.
Non, c'est leur façon de gérer.
Jean-Michel, il n'y a pas de problème.
Jean-Michel, c'est leur façon de gérer. Non, mais c'est leur façon de gérer le championnat. Moi, je vais pas leur donner des leçons. Ce que je regarde juste, c'est
est-ce que gérer les quatre plus puissants clubs, ça. Il y a une
Jean-Michel,
équité sportive.
Jean-Michel, les quatre plus grands clubs, c'est la même chose en France. On retrouve toujours les mêmes, plus ou moins.
Ils n'appartiennent pas à la même personne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que leur mode de fonctionnement leur donne raison aussi dans la progression de ce championnat. Moi, j'ai l'impression quand même que on a dit beaucoup, beaucoup de choses négatives sur l'Arabie Saoudite.
Vous m'avez chambré quand je vous disais que je suivais le championnat.
Moi, je dis juste que aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, où là, ils investissent aussi maintenant sur des jeunes talents. Avant, c'était que des anciens, comme la Chine l'a fait. Là, si tu veux, ils se développent vraiment différemment à une vitesse grand V. Le championnat progresse. Je trouve que tu prends les quatre meilleures équipes, vous venez de le citer. Quand tu regardes les effectifs et les équipes types, franchement, c'est impressionnant.
Ah oui.
Alors, écoute, ouais, moi, je te dis que juste que Al Nasser, qui est l'équipe de Ronaldo, aujourd'hui, il se plaint. Mais vous avez vu l'équipe d'Al Nasser? Non, mais franchement, tu prends l'équipe type d'Al Nasser, tu te dis, bah, franchement, écoute, je sais pas s'il a l'équité sportive ou quoi que ce soit, sportive.
Il y a Mané, João Félix et Kingsley Coman, par exemple.
Attends,
et Mohamed Simakan défense centrale.
Et puis tu rajoutes Ronaldo et tu rajoutes un gardien brésilien qui est le troisième ou quatrième gardien de la sélection.
Nico Martinez, l'ancien du Barça.
Non, mais franchement, et tu peux prendre Al Hilal, c'est la même chose. Non, moi je dis juste que dans le
débat. On n'est pas parti sur le même raisonnement.
Jean-Michel.
Je te l'ai dit, je les ai suivis les matchs quand il était retransmis. Depuis quelque temps, j'arrivais plus à aller voir les matchs. Je ne sais pas pour quelle raison.
Parce qu'il n'y a plus de diffuseur, et... Jean-Michel. C'est pour regarder sur Twitch, désormais, donc, sur les réseaux sociaux.
C'est une bonne raison. Mais le mode de fonctionnement m'interpelle.
Oui, il t'interpelle. Mais parce que
c'est ce que je veux te dire.
Non, voilà, mais il peut nous interpeller. Maintenant, moi, je dis juste que. Pour moi, c'est assez équilibré. Et la preuve, hein, c'est que quand tu regardes le championnat aujourd'hui, c'est très serré avec les équipes de tête. Et il y a un point d'écart entre Al Hilal et Al Nasser. Donc, et les autres sont à 3 ou 4 points.
Et le club
donc,
de Ronaldo.
Il y a de l'attractivité, il y a du suspense. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Et le niveau a augmenté. Donc, ouais, pour l'instant, moi, j'ai rien à dire.
Pif le chien.
Bah, tout simplement, l'accusation se trompe de siècle. On essaye de juger le football. De demain, avec les principes d'aujourd'hui.
C'était des cons avant, oui, c'est vrai.
J'ai pas dit ça. On taxe ce championnat de ridicule. Regardez la NBA, c'est le modèle le plus rentable de la planète. Regardez la MLS, gestion centralisée pour garantir la survie du système. Regardez le salary cap dans le rugby. Ça bâtit une élite mondiale. Moi, honnêtement, je plaide l'acquittement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on condamne pas un empire parce qu'il a un siècle d'avance sur nos dettes du football européen. Voilà, moi j'ai fini.
Tu penses que c'est le modèle qui marche et qu'il
c'est
faut s'adapter
de demain. C'est le modèle de demain.
Nouvelle façon.
Il centralise toutes les meilleures idées qui sont faites dans les sports collectifs. Faut pas rappeler qu'on n'est pas là pour les juger. Bien sûr qu'on a des peut-être, et je suis un peu d'accord avec Jean-Michel, sur certains droits, d'accord, mais ils sont souverains chez eux. Nous, on a été souverains. Je rappelle que le football français, européen, a essayé d'être souverain sur un football mondial, a donné des leçons à tout le monde. Mais sauf qu'on est en dette comme c'est pas possible. On a fait une course en avant.
Les joueurs.
On a fait.
Les joueurs.
Mais Jean-Michel, on a fait une course en avant. Oui, mais Jean-Michel, entre ton système à toi, le système qu'on a connu 90-2000 et le système d'aujourd'hui.
Mais tu l'as pas connu. Le vieux système qui faisait que les clubs étaient propriétaires des joueurs jusqu'à 35 ans et qui faisaient ce qu'ils voulaient avec les clubs.
Et après, il y avait l'arrêt Bosman, donc il y a eu des évolutions.
Moi, je l'ai connu.
Je me suis battu pour qu'existe le contrat, mais je peux éventuellement être interpellé par ce qui se passe là avec ces multiples propriétaires. Ça m'intéresse.
C'est pas grave si je dois vivre un siècle de plus. C'est pas grave.
Ah ouais, on veut que tu restes, bien sûr. On a besoin de toi dans Rotten sans flamme. Le verdict de Damien au 32-16, alors, est-ce que tu condamnes le foot saoudien?
Oui, je condamne le foot saoudien. C'est n'importe quoi. Regardez, vous dites que c'est très beau, c'est magnifique, mais le niveau des clubs saoudiens, il n'est pas ouf. Faut pas croire. Les joueurs en question, ils ont 40 ans, ils continuent à jouer au foot. Mais il y a 20 ans, ils pourraient plus jouer au foot parce que les jeunes, ils les poussaient dehors. C'est aujourd'hui le niveau des jeunes qui est catastrophique. Sauf que les saoudiens, ils mettent beaucoup d'argent. Avoir 4 clubs et qui sont les 4 plus grands dans un championnat, c'est n'importe quoi. Ils décident eux-mêmes qui gagne le championnat. Ça n'a aucun intérêt. La preuve, c'est qu'il y a un désamour des spectateurs. Canal+ avait acheté les droits. Il n'y a eu que 4000 spectateurs par week-end. Ils ont tout de suite revendu.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Et donc, c'est la preuve.
Mais ça n'a rien à voir.
Il a le droit de progresser.
C'est pas forcément la cible, nous. Hein.
On n'est pas la cible, nous. Hein.
Non,
je te rappelle qu'ils sont sur le continent asiatique. Ils sont sur le continent asiatique. Ils sont sur le continent africain. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres.
Parce que quand tu fais des stars internationales, c'est pour que tout le monde regarde. C'est pas.
Non, mais il n'y a pas d'intérêt quand ils ont la main mise sur qui gagne le championnat, ils ont les 4 plus gros clubs du championnat entre leurs mains.
Tu t'es posé la question entre 800 millions d'euros sur le budget du PSG.
Arrête de parler, ils ont des conseils quand même. Ben c'est pas possible.
Mais Jean-Michel, faut pas non plus évincer le problème ou le sujet. L'argent, bien sûr, c'est le cœur du réacteur. C'est qui les derniers champions de France? Allez, il y en a trois. Mais dans les trois, combien de fois le PSG? Mais forcément qu'il y a une valeur par rapport à l'argent. Tu vas en Angleterre, c'est pareil. En Allemagne, en Espagne, c'est pareil. Et dans le championnat européen, il y a quoi? Il y a 6 équipes qui se battent pour gagner la Coupe d'Europe.
Mais là, ils se battent pas, puisque c'est eux qui décident qui gagne. Il n'y a même pas de compétition.
Steve, le procès qu'on est en train de faire, sur le championnat saoudien, je me gratte pas pour de temps en temps égratigner Monsieur Seferine et l'autre, comment il s'appelle,
Monsieur Infantino, ton ami.
Et Monsieur Infantino.
Damien.
Bien sûr,
Damien.
Je vais pas passer des vacances avec eux, hein,
Damien,
je te le dis.
Damien, moi j'ai été critique sur le niveau de l'Arabie Saoudite, mais je trouve qu'il progresse.
Et force est de constater que ça progresse.
Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'on a eu la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet, et il y avait Al Hilal, d'accord. Donc Al Hilal, t'as suivi un peu la Coupe du Monde des clubs?
Damien.
Oui, j'ai suivi.
Al Hilal, ils ont été invaincus sur la phase de poule. Ils ont fait match nul contre le Real Madrid. D'accord. Ils sont sortis. Ils ont sorti en prolongation Manchester City.
Ouais.
D'accord.
Oui.
Et ils perdent donc contre Fluminense.
2-1.
Donc, moi, je trouve en effet qu'ils ont donné une bonne image et surtout on pouvait comparer par rapport à d'autres équipes, par exemple la MLS.
Oui.
On a vu que c'était ridicule le niveau de la MLS à travers les équipes de MLS.
Tu as vanté le système MLS tout à l'heure dans ta plaidoirie.
Au contraire, j'ai dit qu'ils avaient leur système. Ils avaient leur système que moi je suis pas là pour les critiquer, je vais pas leur donner des leçons. Écoute, c'est un système. Par contre, que les Américains ils n'essayent pas de venir en Europe nous mettre en avant.
Jérôme, là où il faut se poser la question, c'est pas tellement qu'il faut imiter ce système. La question qu'il faut se poser, c'est comment contrecarrer notre système qui est aujourd'hui. Il y a tellement de différences entre les clubs qui ont énormément de finances et surtout ceux qui sont en défaillance financière. Est-ce que c'est normal que le Real Madrid, Barça, ils aient un chrome de je sais plus combien, 500 millions dès qu'ils commencent en DNCG? Et puis que ça reparte et qu'ils puissent retirer. Et nous, en France, on arrive, on a une DNCG qui est loyale, il n'y a pas de souci, qu'ils ne puissent pas retirer. Non, mais à un moment donné, quelqu'un va taper son poing sur la table et de se dire notre système ne fonctionne pas, mais les autres, ils sont tellement teubés qu'ils vont faire comme nous. Ben non, ils essayent d'inventer. Bon. Ils n'ont pas forcément raison, surtout. Mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer une formule.
Et victoire de Jean-Michel Larquet à plat de couture. Ouais. Voilà, ouais. Damien a rendu son verdict. Bravo, et dans un instant, on reparle de Marseille-Rennes ce soir, 8e de finale de la Coupe de France avec Rod Fanny qui sera avec nous. À tout de suite.
Roten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec le Allo Jérôme et Rod Fanny qui est en coulisses là. Ah, il a envie de parler, il a envie de nous dire ce qu'il ressent de l'Olympique de Marseille et puis surtout nous apporter son expérience. Mmh. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et après 19h, Benoît.
Safonov Chevalier, est-ce que la concurrence est terminée? Supporter parisien, on vous attend au 32-16. Mais tout de suite, donc Rod Fanny nous attend.
RMC, Roten sans flamme.
Vers le point de pénalty vers Fanny. La tête de Rod Fanny, c'est au fond. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. 1-0, c'est signé Rod Fanny.
Il est là l'ancien Fabien, il est là.
Allô Jérôme.
6 saisons passées à l'Olympique de Marseille, 4 au Stade Rennais. Rod Fanny est donc notre invité dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Rod.
Salut tout le monde.
Salut Rod.
Bienvenue, ça va?
Salut Rod.
Ouais, ça va, impeccable. Merci, et vous?
Bon, écoute, nous, on est en pleine forme. Tu sais, on parle de foot tous les jours, donc tout va bien. On est des grands passionnés.
Il y a pire.
Ouais, exactement. Bon, alors, tu dois souffrir en ce moment avec l'Olympique de Marseille, j'imagine. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Je sais pas si le mot est suffisant. Souffrir, c'est de la torture. C'est vraiment de la torture, ce qu'on vit en ce moment. En tout cas, pour les passionnés comme moi du club. Et c'est vrai que ça chauffe pas mal dans le sud aussi. Et notamment, je sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, vous savez un peu tout. Il y a eu pas mal de réunions, notamment au sein du club avec les supporters et autres. Donc c'est vrai que ça chauffe pas mal.
T'as connu ces situations-là, Rod? Toi, t'as eu des belles heures à Marseille. T'as connu des titres au début des années 2010-2011. T'es resté 5 ans. T'as connu des moments beaucoup plus chauds aussi. Dans ces moments-là, un match comme ce soir pour l'OM, on dit que les supporters sont derrière le club, mais on sent bien qu'à la moindre étincelle, ça peut chauffer. Comment on prépare ce type de match quand on est joueur de l'OM?
Ben moi personnellement, c'est difficile à préparer. Moi personnellement, il fallait couper les réseaux sociaux déjà, parce ouais. que c'est surtout à ne pas faire les réseaux sociaux, éviter de voilà de traîner un petit peu trop dans la ville, à droite à gauche, dans les restos et quoi entre guillemets de détente ou d'amusement, parce que c'est très vite pris presque comme une insulte. Ils sont très très voilà à Marseille, ils sont tous très très passionnés et voilà de nous voir pas forcément concentrés ou penser que au match dans des situations comme ça tout de suite et c'est très très mal perçu donc voilà il faut se mettre dans une coquille. Pour moi c'était un peu ma formule, je mettais dans une coquille, je me concentrais, j'évitais les réseaux parce que voilà ça va dans tous les sens, ça peut être des insultes, ça peut être tout un tas de choses aussi. Donc c'est vrai que c'est un contexte vraiment pas évident. Mais il y a que comme ça, voilà, qu'il faut se, voilà, il faut se reconcentrer vraiment dans ce qu'on sait faire à la base, c'est du football, et surtout pas s'éparpiller parce que pour un rien, ben, on a vu beaucoup de joueurs à Marseille, voilà, perdre pied. Et là, c'est exactement ce genre de situation qui fait que on peut perdre quelques joueurs déjà sur la route dans ce genre de tournant. À ce moment-là de la saison, parce que là, de ce que j'ai compris, c'est un peu le match, un petit peu de la dernière chance. Parce que y a cette coupe là peut-être à aller chercher contre Rennes et pour tout le reste voilà il y a les espoirs sont tellement voilà ils sont foutus, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tension et des discussions aussi autour de voilà, de l'avenir de l'entraîneur, de certains joueurs aussi, il y a déjà certains joueurs qui sont déjà mis sur la liste des transferts sans citer de nom indirectement et donc on sent que c'est vraiment un tournant important si il foire ce match là je pense que entre ce qui s'est passé contre le PSG et tout ce qui s'est passé au cours de la saison, c'est vrai que c'est très 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 dur à encaisser parce que c'est à chaque fois on fait croire que ça va le faire et derrière ça tout est démoli en une fraction de seconde donc ça commence à être difficile pour les supporters vraiment.
Rod, tu parlais de te recroqueviller lorsque tu préparais un match et que la situation était un petit peu complexe. Moi, je suis quand même très surpris, c'est Jean-Michel Larquet là.
On te reconnaît, Jean-Michel.
Je suis un petit peu surpris quand même que dans cette réunion où il y avait les représentants, j'ai entendu dire, alors mon information est peut-être pas très bonne, mais qu'il y avait la majorité des joueurs. Tu penses que à quelques heures, à quelques jours d'un match capital, c'est bien d'aller se disperser dans ces réunions-là et qu'il n'aurait pas suffi d'un ou deux représentants pour...
Il les a cités, Flo, tout à l'heure. Balerdi, Kondogbia, Wea étaient là notamment. Bon,
Ils ont pris la parole. Ouais. Il a bien dit qu'ils ont pris la parole. Mmh. Mais apparemment, tous les joueurs étaient là. Je trouve que c'est quand même peut-être pas tout à fait leur place. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est très délicat. C'est pour ça que je parle toujours de Marseille comme un match, comme une équipe particulière, parce qu'il se passe des choses, comme tout le monde le sait, comme pas dans d'autres clubs, voilà, en France. Et je pense que tous les joueurs, quand on signe à Marseille, moi le premier, quand j'ai signé là-bas, je savais très bien dans quel contexte j'allais, dans quel, voilà, il faut être prêt, voilà, à vivre ce genre de choses-là. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure des choses, bien sûr que oui, surtout peu de temps après, avant un match, de se retrouver voilà face aux supporters et croyez-moi, je l'ai vécu hein, personnellement, j'ai fait quelques réunions et il y en a certains qui sont beaucoup plus cléments que d'autres et c'est vrai que bon, ça s'est toujours bien passé à la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin à... En fait, je pense que ces réunions-là, elles sont pas forcément pour les joueurs, elles sont peut-être plus pour les supporters qui ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, d'évacuer cette frustration qui vivent et le fait de pouvoir évacuer cette frustration, alors c'est vrai que c'est pas forcément le mieux pour nous en tant que joueurs, mais au final je pense que c'est pas si mal que ça parce que le fait de voilà qu'ils puissent un peu s'exprimer, se sentir écoutés, se sentir importants aux yeux des joueurs du club et de voilà de ressentir un petit peu les joueurs comme ça, eh ben ils se sentent un peu plus considérés et ça leur permet de repartir le week-end et de redonner 200% voilà entre guillemets dans le support et dans les tribunes, et de pouvoir voilà, vraiment être à 100%. C'est pour ça que je ne vois pas forcément ça d'un bon œil, mais il semble quelque chose d'important par la suite, parce que à retourner au stade avec 60 000 personnes qui vous sifflent ou qui vous huent ou qui vous insultent ou qui font du silence, parce qu'on a vécu aussi, hein, on a vécu des matchs où il y a eu beaucoup de silence.
C'est vrai, ouais.
Et on entendait le bruit des chèvres, ouais. Les bruits d'animaux.
Surtout quand nous, au PSG, on venait se déplacer à cette époque-là.
Voilà, donc c'est pour ça que il y a du mal et il y a du bien, mais à un moment donné, voilà, quand on signe à Marseille, il faut savoir aussi affronter aussi, les bons moments, les mauvais, et comme on dit, voilà, être un homme, comme disait Salanès dernièrement. Mais faut, voilà, faut assumer et il faut faire le maximum derrière.
Rod Fanny en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Ouais, Rod, tu parlais des joueurs. Alors forcément, hein, pas facile hein, de les préparer, ces matchs-là. Mais même au sein de l'effectif, toi, t'as connu aussi une mise à l'écart. Un espèce de loft, là, ce qu'on appelle les lofts, et c'est jamais simple pour rebondir. Bon, toi, t'as réussi quand même à sortir la tête de l'eau, t'avais réintégré l'équipe. Mais là, t'as vu, je sais pas si t'as suivi ce qui est arrivé à Murillo qui jouait, et puis d'un seul coup, on l'a écarté parce que il se donne pas assez, parce que ceci, cela. Bon, alors que ça posait pas problème il y a quelques matchs, donc c'est difficilement compréhensible ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en penses, à toi, de cette mise à l'écart de Murillo?
Moi, j'ai jamais aimé les mises à l'écart, quoi qu'il en soit. Moi, c'était un peu plus délicat. Moi, c'était plus des problèmes contractuels parce que c'est vrai que sportivement, moi, ça se passait très, très bien. Maintenant, c'était des histoires de contrat. Malheureusement, le foot, on l'oublie souvent, mais c'est du business. Donc, quand on n'est pas toujours d'accord, ben, des fois, il y a des moyens un petit peu, vicieux pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Donc, c'était un peu mon cas. Pour Murillo, c'est vrai que c'est dommage parce que, voilà, de ce que j'ai comme écho, c'est pas forcément quelqu'un de nuisible ou de mauvais. Après, être mis à l'écart, je sais pas ce qu'il y a en interne, donc c'est dur de donner un jugement juste. Mais c'est sûr qu'on préfère toujours, quand on trouve des solutions, plutôt que des mises à l'écart et des choses un petit peu médiatisées comme ça, parce que ça nuit aussi bien aux joueurs qu'au club. Parce qu'à la finale, quand des joueurs voient ça, j'ai connu des joueurs qui n'ont pas voulu signer à Marseille, parce que ben justement pour tout ça, alors que ce soit pour les supporters, que ce soit aussi parce que ils ont l'impression que des fois le club est un petit peu entre guillemets véreux ou autre, où il y a des pressions malsaines. Et donc je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est pas la meilleure des solutions.
Merci Rod d'être venu dans Rotten sans flamme.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci Rod.
Bon match ce soir. Hein.
Entretiens-toi. Ouais,
merci beaucoup. Ouais.
T'es pour l'OM ce soir du coup Rod.
Oh, j'hésite.
Bon, moi, tu seras pas déçu.
Je suis mordu.
Tu seras pas déçu.
Et bleu et bleu.
Ah, il est bon.
Et blanc et bleu.
Bon. Il est bon, Rod. Bon. Merci, Rod. À bientôt.
Salut, Rod. À bientôt.
Salut.
Bye. Et dans un instant, Rotten se chauffe. On parle donc du Paris Saint-Germain, de cette concurrence entre Safonov et Chevalier. Est-ce qu'elle est terminée? 32-16 pour participer au débat. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h01 sur RMC, la deuxième heure de Rotten sans flamme du soir avec Jean-Michel Larqué, avec Steve Savidan ce soir, avec Benoît Boutron comme tous les jours. On est là jusqu'à 20h. Restez bien avec nous parce que là, on va se régaler. On va encore parler de l'actu du foot. Si vous avez raté la première heure, on vous le dit tous les jours, c'est pas bien. Elle est déjà disponible en podcast. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Rotten sans flamme. Comme ça, vous avez accès à tout. À toutes les interviews. On remercie encore Rod Fanny d'être venu nous livrer ses impressions sur l'Olympique de Marseille et son expérience aussi.
Ah oui, il a tout connu, lui.
Et puis là, on va parler du champion d'Europe.
On va parler du PSG, mais je rappelle la magnifique opération qui nous attend lundi, à partir de lundi dans Rotten sans flamme, avis de recherche.
Oh là. Oh là là.
Vous avez croisé dans votre vie professionnelle ou personnelle un membre de la Dream Team, que ce soit Jérôme Rotten, Jean-Michel Larqué, Christophe Dugard, Emmanuel Petit.
Personnel. Tu
peux. Ah, pourquoi pas. Vous avez été professeur de Pascal Olmeta, vous avez été coéquipier de Jean-Michel Larqué, vous avez été contrôleur fiscal.
On est pas de notre vie privée là et tout.
Tout, quelqu'un.
Vous nous, on veut. Tout, vous
on veut des on personnes a, qui on ont marqué
mot,
votre
on a,
vie.
On n'a pas. On n'a pas notre mot à dire.
Ah bah non, c'est pas marrant sinon. On veut des personnes qui ont marqué votre vie ou si vous avez marqué la leur. Sachez que depuis 18h, on a fait l'appel déjà hier, mais là depuis 18h, on a déjà des témoignages qui arrivent au 32-16. Continuez d'appeler le 32-16 ou laissez des messages sur le 06 12 424 424.
Moi, je suis malade la semaine prochaine.
Non, tu seras là. Tu seras là. Toi aussi, Jérôme, tu seras là. On a beaucoup de dossiers sur vous qui vont ressortir. Donc, on a hâte d'être à ce moment-là. Ça va être magnifique.
Ah, j'ai cinéma et piscine la semaine prochaine, moi.
Cinéma et piscine, ouais, c'est ça. Bon, rendez-vous la semaine prochaine et continuez de témoigner. Nous, on fait notre boulot de notre côté, vous inquiétez pas. À 19h45, il y aura le quiz dans Rotten sans flamme. Le cadeau, c'est carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Pour vous inscrire, 32-16, touche 4 ou quiz par SMS au 732-16. À 19h30, on va parler du RC Lens, la VAR de Rotten sans flamme. Alan Saint-Maximin, pardon, est-ce que c'est une fausse bonne idée pour le RC Lens? On fera le débat donc à partir de 19h30.
Saint-Maximin
qui arrive effectivement au Racing. Il est d'ailleurs qualifié pour la Coupe de France demain, ouais, pour le match des
Lensois ce soir.
Exactement. Mais tout de suite, on parle du PSG parce que ça se complique pour Lucas Chevalier.
Comment reconnaître un mur porteur?
Mais c'est le meilleur gardien que j'ai eu jamais dans cette partie. Sa capacité à deviner les côtés où va être lancé les pénaltys.
Parce que trop souvent, j'entends les amateurs qui regardent juste l'épaisseur des murs pour savoir si c'est porteur ou non.
C'est pas en changeant tous les matchs, tous les deux matchs un gardien que le gardien va reprendre confiance.
Une fissure dans un angle de mur à 45 degrés doit vous inquiéter.
La frappe de Moreira, le but! Et Lucas Chevalier fixé au sol, qui n'arrive pas à intervenir alors qu'il n'y a pas trop de puissance.
Attirez votre attention sur les dangers d'ouvrir un mur porteur et que des murs porteurs qui n'étaient pas peuvent le devenir.
Safonov est titulaire, il revient de blessure. On rappelle, il avait été très bon en remplaçant Lucas Chevalier.
Pour la solution, ben, elle est simple. Faire appel à un architecte et peut-être à un ingénieur en stabilité.
C'est parti pour Panicelli. Il l'a arrêté, Safonov. C'est son truc, les pénaltys. C'est un mur sur l'exercice.
Ça a été mon travail. Je dois arrêter ça.
Mais putain, allez. Alléluia.
Alors la hiérarchie des gardiens évolue au PSG, ça ne vous a pas échappé. Safonov qui est tout juste revenu de blessure, il a joué contre Newcastle à la surprise générale. Il a enchaîné à Strasbourg en stoppant de nouveau ce penalty. D'ailleurs, Luis Enrique, vous l'avez entendu dans la production sonore, a encensé son gardien. Voilà, il a jamais vu un gardien aussi fort sur penalty. C'est compliqué donc pour Lucas Chevalier qui a été recruté 55 millions d'euros l'été dernier.
Qui
avait disputé 5 matchs de suite lorsque Safonov s'est blessé, mais qui a de nouveau perdu sa place. Alors Safonov, Chevalier, est-ce que la concurrence est terminée? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que c'est fini à ton avis, Jérôme? Est-ce qu'il y a un numéro 1 à Paris? Est-ce que c'est Safonov désormais, ce gardien titulaire à ton avis?
Ah, vous aimez ça, hein, vous aimez ça y est. Alors, attends, numéro 1, alors ça veut dire quoi en fait?
Safonov,
s'il fait des boulettes,
exactement,
eh ben, il continuera à être numéro 1. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ah, en fait, moi je comprends totalement la gestion de Luis Enrique là-dessus, et au contraire, ça montre à quel point il a du respect aussi pour le premier, pour le deuxième et le troisième gardien. Safonov, quand ils l'ont pris l'année dernière, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une concurrence qui est normale en début d'année avec Donnarumma, qui donnait pas satisfaction. Ça a été le cas et il a eu sa chance. Le problème, c'est que Safonov, il s'est planté contre le Bayern, ouais. On se souvient, il a fait une boulette que aurait pu faire Donnarumma, qui en avait fait plein de la sorte.
C'était 20 millions, hein, Safonov, investissement.
Non, mais c'est 20 millions, c'est l'argent quand même.
Bah oui, c'est ce que
et donc, donc automatiquement, il a remis Donnarumma parce qu'il s'est dit, il est pas prêt, Safonov, et Donnarumma a fini l'année en boulette canon et on sait ce que ça a donné. Cette année, ça a été très clair. Safonov, c'est inscrit en numéro 2, et quand tu as investi sur Chevalier, le club et Luis Enrique, ils ont été honnêtes, ils ont dit, nous on prend Chevalier parce que Donnarumma est parti, mais c'est pour remplacer Donnarumma en poste de numéro 1. Il l'a été, il a joué tous les matchs depuis le début de saison, et pourtant il y a beaucoup de matchs où il n'a pas été à la hauteur. Je ne vais pas revenir sur tous les matchs moyens et les petites boulettes qu'il a pu faire, mais il y en a eu beaucoup, et des très bons matchs de Chevalier, malheureusement il n'y en a pas eu. Match complet, hein, de la première à la dernière minute. Hein. D'accord? Qu'on attendait de lui. Non, il n'y en a pas eu, tu peux me faire
pas,
ça.
Il n'y en a pas,
non,
eu, mais il y a eu des bons matchs quand même.
Non, mais je ne te dis pas qu'il n'y a eu que des mauvais matchs. Je te dis pas que
c'est. Quand on fait des champions, il n'a pas été mauvais quand même.
Ouais, il n'a pas été mauvais. Mais bon, il a fait l'erreur sur le pénalty de Greenwood et qui donne l'égalisation. Ah ben oui, qui amène l'égalisation. Je suis désolé, c'est la réalité.
Je sors pas,
je sais pas. Et puis à l'arrivée, quand tu sais pas, tu fais la faute. Mais derrière, en effet, ce que je veux dire, c'est que Safonov, il a eu sa chance, parce que je pense que Luis Enrique au quotidien, c'est que moi, avec les infos que je peux avoir du vestiaire et comment ça vit, en effet, l'intégration de Chevalier, je ne cesse de le dire, elle a du mal à se faire, donc il va falloir qu'il se mette dans la peau du joueur du Paris Saint-Germain, le joueur Paris Saint-Germain au niveau international. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais il ne faut pas être définitif, il ne faut pas dire c'est pas parce qu'aujourd'hui il ne l'est pas qu'il ne deviendra pas.
Est-ce que tu te crées moi, un problème en fait?
Mais non, le problème c'est que, arrête avec ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Safonov, il lui donne pas sa chance quand Chevalier est pas bon, Mais il l'aura jamais, ah, en fait.
Ça veut dire qu'au lieu d'en avoir un en confiance et l'autre pas en confiance, tu peux avoir deux gardiens pas en confiance. C'est ça le problème.
Mais pas du tout. Ah bon, mais pas du tout. Parce que aujourd'hui, Safonov, la preuve, c'est qu'il te montre qu'il est en confiance. Il est en pleine position de ses moyens. Et aujourd'hui, en effet, il est rassurant pour sa défense. Il est rassurant pour Luis Enrique. Il fait des bons matchs. Comment tu veux sortir Safonov aujourd'hui?
Oui.
C'est pas possible. Donc, il le laisse. Chevalier, à lui de revenir à un bon niveau. Et le jour.
Et comment?
Où ça, bah
oui,
bah comment? Bah déjà, en t'entraînant correctement, en te mettant à fond dans la vie du groupe, et ensuite, une fois que c'est ça, mais c'est toujours pareil, et c'est là que
en
la concurrence...
En te donnant un os arrangé pour,
mais non,
pour
mais
la Coupe de France,
mais, ah mais non, ils mais sont c'est pas calme. Vrai, ah ouais, c'est pas vrai, Jean-Michel, parce que le problème, le souci qui peut se poser, c'est en effet, c'est que pour Chevalier, c'est que Safonov soit au même niveau sur les, jusqu'à la fin de l'année, comme Donnarumma a été l'année dernière. Mais écoute,
et t'as perdu et, Chevalier. Et ben,
ouais, mais sauf que t'auras gardé, t'auras gagné un grand gardien qui t'a fait passer les échelons et qui te fera peut-être gagner aussi la Coupe d'Europe.
T'as mis 50 millions d'euros, j'ai un gardien qui est plein de talent.
Mais alors, mais l'année prochaine, c'est une autre année.
Jérôme,
et puis voilà,
la question, la question est de savoir à l'instant T si le problème est réglé.
Mais le problème, il est, c'est que Safonov est numéro 1. Point final.
Voilà.
Mais voilà. Et est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème?
Et personne ne sait combien de temps il va être numéro 1, ni Safonov, ni Chevalier, ni Luis Enrique.
Mais non.
Mais s'il continue là-dessus, Chevalier, il est perdu, hein.
Mais perdu à
si,
quoi?
Safonov.
Mais perdu. Si, mais si, tu te rends compte ce que tu racontes? Perdu à quoi?
Mais si Safonov continue
et alors
à être le Safonov, il va jouer quand?
Mais Chevalier s'inclinera, il dira bah écoute, Safonov il est plus fort que moi.
Il s'inclinera.
Je rappelle qu'il n'est pas dans la liste de Rotten.
Il s'inclinera tellement qu'il va se casser en deux et qu'on va le casser en deux physiquement.
Mais tu te rends compte ce que tu racontes?
Bah oui.
Non mais attends, il a été recruté, il se remettra
dans les clous. Comment?
Mais
explique-moi.
Mais je sais pas, un sportif de haut niveau, c'est quoi? C'est un mental. Et au bout d'un moment, quand t'as des choses qui t'arrivent et qui sont dures,
les sportifs de haut niveau, il faut à un moment donné qu'il soit sur le terrain, qu'il soit sur la piste d'athlétisme.
Il avait qu'à être arrière droit, hein, il a choisi d'être gardien.
Ah non, mais bon,
et tu sais qu'un gardien,
il jouera jamais les matchs.
Mais arrête de dire qu'il jouera jamais, Jean-Michel. Safonov.
Il ne jouera jamais.
D'accord. Alors, je t'explique. Je le souhaite pas à Safonov parce que je trouve qu'il a en plus une très bonne mentalité. Donc, si Safonov, il joue le match contre Monaco en Ligue des Champions, c'est parti pour, on est d'accord. Donc, et là-bas, il fait une boulette. Tu crois que Chevalier, il va pas rejouer?
J'ai eu la précaution de te dire que si Safonov continuait sur ce qu'il fait actuellement.
Et ben alors, il continuera à jouer.
S'il prend deux ballons, deux cajots, deux boulettes. Évidemment. Ah oui.
Mais le problème, c'est que Luis Enrique crée une jurisprudence en faisant cette instabilité.
Et si tu changes à la moindre
erreur, comme dit Jean-Michel, c'est que là, tu mets Safonov jusqu'à Monaco.
Mais qu'est-ce que vous
Monaco.
Bah
mais
oui.
Parce que Jean-Michel a raison. S'il fait, allez, c'est pas histoire qu'il prenne deux buts, mais il fait deux erreurs. Allez, une erreur flagrante. Ils perdent, ils sont éliminés. Mais je te le dis honnêtement, mais on recommence, on remet Chevalier jusqu'à temps qu'il refasse
une boulette. Problème, alors.
Et après, tu vas partir.
Parce que tu n'installes personne.
Non mais attends, en fait, tu n'installes pas personne sur un climat de confiance.
Mais arrête,
toi, Jérôme, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu te trompes. Je pense que nous trois réunis avec Benoît, on ne peut pas comprendre cette mentalité.
J'ai un message de Pascal Olmeta qui me dit Jérôme ne comprend rien au gardien.
C'est spécifique au gardien de but.
Non, c'est pas vrai, ça, en plus.
Parce que c'est une particularité.
C'est pas vrai.
Spécifiquement, ils ont un truc différent que les joueurs de champ. Mentalement, ils sont préparés différemment. Donc, ils ont besoin à la fois de sécurité.
Mais arrête, mais avec
ces sécurité. Et à la fois, de concurrence de dire que le gardien numéro 2 n'est pas très loin.
Je te pose la question à toi et à Jean-Michel.
Oui, Jérôme.
Je vous pose la question. Est-ce que le climat de sécurité, Luis Enrique et l'encadrement et l'entraîneur des gardiens, lui a donné sur le début de saison? Oui ou non?
Parce qu'il est...
Non mais réponds à ça.
Eh ben non.
Oui ou
ça lui a pas donné.
Ah non.
Non, ça lui a pas donné.
Ah non, ça lui a pas donné. Il faisait Bourde-sur-Bourde, il jouait tout le temps.
Arrête, Jérôme, t'abuses ou quoi? Bourde-sur-Bourde, t'es sérieux?
Écoute, moi je.
Non, il faisait pas Bourde-sur-Bourde.
Et tous les matchs importants. Tous les matchs. Non, mais peut-être que j'ai abusé.
Peut-être que j'ai abusé. Donnarumma sur les 6 derniers mois. Mais par contre, je reviens à ça. Si le projet a la valeur où ils l'ont acheté.
Mais alors, si le projet. Le projet, c'est sur plusieurs années, mais arrêtez vos bêtises.
C'est pas une analyse à court terme.
Non, mais regarde dans ta façon de voir.
Est-ce qu'on peut dire, même s'il a gagné la Ligue des Champions, que Luis Enrique, là-dessus, sur ce truc-là, peut-être qu'il se trompe.
Mais l'année dernière, ça lui a donné raison, oui ou non?
Oui. Et de quoi?
De cette gestion-là. Est-ce que ça lui a donné raison, la gestion des gardiens, oui ou non?
Dans le dernier semestre. Non mais attends, dans le dernier semestre.
Mais oui, ça lui a donné raison, les gars.
Est-ce qu'il était en concurrence?
Mais il était en concurrence, sauf qu'au Donnarumma, il était énorme. Comment tu voulais le sortir? Mais comment
veux-tu savoir?
Et Safonov, il a quand même joué les matchs de Coupe de France, Jérôme.
Non mais Jérôme, attends, ça va être très clair. Moi, je ne prends pas parti pour l'un ou pour l'autre, Safonov ou Chevalier. Mais comment veux-tu que un joueur, c'est en pleine possession de ses moyens, si sur, on va dire, moyen long terme, tu l'installes pas dans une progression.
Il a été installé pendant les 4 premiers mois, il était installé.
Mais je te parle pas de Chevalier ni Safonov. Je te dis l'un ou l'autre.
Mais parce que Safonov, il n'est pas programmé au départ pour être numéro 1.
Mais sauf que là, si tu fais cette jurisprudence, le prochain match contre Monaco, il se casse la gueule.
La preuve, il devait.
Et que tu mets Chevalier, et ben c'est bordel, tu perds deux gardiens.
Comme l'appétit vient en mangeant, il l'est devenu. Et il va tout faire pour le rester.
Mais bien sûr, il a raison.
Mais pourquoi vous me dites qu'il va perdre deux gardiens si jamais ça se passe mal avec sa faute? Mais je comprends pas, moi, cette vision-là.
Mais attends, les gardiens, il faut les empailler, en fait. J'aimerais aujourd'hui connaître le degré de confiance qu'a le pauvre Lucas Chevalier. Parce que je le plains.
Attends, Jean-Michel. Et avant de dire le pauvre, déjà, il faudrait être au courant de tout ce qui se passe sur l'intégration, l'adaptation au PSG de Lucas Chevalier.
Jérôme,
parce que c'est bien de nous dire, enfin, oui, Chevalier,
pas,
le pauvre,
pas, oh,
il est gentil, il parle bien. Chevalier, pour perdre sa place aujourd'hui, c'est qu'il a fait des bêtises, Jean-Michel.
Il a pas été performant.
Il n'a pas été performant. Mais là, je te parle du terrain.
Safonov a été bon. Et tant que Safonov sera bon, eh bien, l'écart avec Chevalier va se creuser naturellement. D'accord. Parce que tant que Safonov sera bon, Safonov restera.
Exactement.
Et le pauvre Lucas Chevalier, eh bien, il aura même tendance à ronger et il ne pourra pas prouver.
C'est là que je te dis que Jean-Michel, c'est là que je suis pas d'accord avec le pauvre Lucas Chevalier parce que tu le fais passer pour quelqu'un qui subit les choses. Je te dis que pour subir ça, c'est que il a pas sur les mots.
Tu comprends bien ce que je veux dire.
Non, je joue le pauvre Lucas Chevalier. Je joue sur les mots parce que pour moi, il y a des choses que je peux pas entendre. Quand tu critiques Lucas Chevalier aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas normal. Je te parle de moi, par exemple. C'est pas normal, où les gens qui le critiquent, parce qu'il y en a beaucoup, et je peux te dire, il y a beaucoup de supporters du PSG, que quand il est dans les buts, et ils sont pas rassurés, et c'est pas rassurant, et Benoît, me regarde pas comme ça, parce que tu le sais, tu as fait tous les matchs du PSG. Donc, il y a les performances sur le terrain, et je pense, en effet, que Luis Enrique, il a été patient. D'accord. Et il y a aussi tout ce qui se passe en dehors, que ça soit au quotidien, dans l'approche de ta profession, du football de haut niveau, et gardien ou pas, il y a une approche à faire et peut-être qu'il y a eu des manques. Et si je te dis ça, c'est qu'il y a eu des manques parce qu'on me l'a dit. Et dans son hygiène de vie aussi, il y a eu aussi quelques manques. Le problème, c'est que dans son hygiène de vie, quand tu fais des conneries, quand tu fais des conneries, Jean-Michel et Steve. Et vous le savez très bien. Quand dans ton hygiène de vie, t'es pas nickel. Qu'il y a des choses qui remontent, d'accord? Qui remontent, moi, à mes oreilles.
et qui remonte.
D'autres aussi.
Alors t'imagines que si ça remonte à nos oreilles, imagine aux oreilles de Luis Enrique. Ça remonte d'autant plus vite.
Et ben
écoute, je pense que ça plus ça plus ça, il a donné sa chance à Safonov. Et ben Safonov, il l'a saisi.
Est-ce que je peux me permettre une réflexion, Jérôme?
Non, parle pas de ça.
Tu me parles,
vous me parlez que on va perdre Chevalier.
Jérôme,
franchement, on va perdre Chevalier. Le mec, il est venu avec un bon salaire et tant mieux pour lui, avec un gros transfert, et au bout de 6 mois, vu qu'il joue pas parce que Safonov il est bon et que lui a pas été bon,
Jérôme,
on va perdre Chevalier.
Les positions, Jérôme, regarde l'exemple que je te prends et Jean-Michel Larquet sera d'accord avec moi. Admettons,
moi, j'ai pas d'avis, moi.
Non mais parce que Jean-Michel, c'est ce qu'il voulait dire, je pense, dans son explication. Admettons, Safonov est donc le titulaire du Paris Saint-Germain. Mmh. Il fait des bons matchs systématiquement. En tout cas, il est pas fautif sur un match ou deux.
Ouais.
Mais à l'entraînement, le meilleur, c'est Chevalier. Mais c'est pas la perf à l'entraînement de Chevalier qui va changer la hiérarchie des gardiens au PSG.
Absolument.
En fait, c'est parce que Safonov est bon le samedi qu'il jouera, et peu importe la semaine, il va pas tenir compte des entraînements à partir du moment où l'autre. C'est ce que dit Jean-Michel, c'est que comme en ce moment c'est Safonov qui a l'opportunité, tant qu'il est bon en match, il jouera. Peu importe ce que va faire Lucas Chevalier dans les entraînements. En fait,
mais Benoît, t'as quand même eu, tu t'es entraîné.
Oui.
Avec des joueurs, même au niveau amateur, peu importe. Mais tu t'es entraîné, t'as vu l'entraînement des gardiens.
Oui.
T'as vu. Bon, écoute, est-ce que vraiment sur les entraînements, tu voyais un écart entre le numéro 1 et le numéro 2?
C'est ce que je te dis.
Mais alors,
en fait, c'est même plus une question d'investissement, c'est une question d'opportunité. Si, c'est lui qui joue, donc tant qu'il est bon, il va jouer.
Les gardiens, ils s'entraînent à part déjà, la plupart du temps.
Oui.
Et donc, ils sont investis.
Dans les oppositions, ils jouent, les gardiens.
Ils doivent être investis de la même façon. Et ils jouent de la même façon. Et franchement, quand tu recrutes Lucas Chevalier, c'est pour qu'il soit numéro 1.
Oui.
Mais tu te dis pas, il y a un monde d'écart entre Chevalier et Safonov.
Bon, quand même, Jérôme, tu rigoles ou quoi? Chevalier, on l'annonce comme le numéro 1 de l'équipe de France depuis quelques mois.
Et donc Safonov, qui a recruté 20 millions, ils ont mis 20 millions dans le vent. Ils se sont dit, tiens,
quand
on va
ils l'ont pris, qu'il y avait
Donnarumma,
on se disait pourquoi ils investissent autant, bien sûr.
Mais non, mais ce que je vous comprends pas. Non, Safonov, c'est pas une merde.
Mais c'est pas ce que je te dis.
Donc Safonov.
Mais c'est justement pour ça que la situation de Chevalier est de plus en plus compliquée. Parce que Safonov est un bon gardien.
C'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de te dire que
c'est qu'aujourd'hui le numéro 2 ou le numéro 1 bis est devenu un numéro 1 incontestable, et vous-même vous dites que autant l'un apparaît petit dans le but, autant l'autre donne
rassure,
des garanties.
Voilà, c'est vrai. Et alors c'est problématique de dire
ce
ça.
Ce que vous voyez,
et c'est grave
ce que
de dire
vous
ça.
Voyez, est-ce que Luis Enrique n'a pas le droit de le voir?
Et c'est grave de dire ça.
Non, mais ça veut dire que.
Ah, tu te rends compte qu'on va perdre Lucas Chevalier, quoi.
Non, mais c'est un investissement, Jérôme.
Mais on parle pas tellement.
Je vais te dire, avant d'accueillir Karim, je vais te dire, c'est pas un problème. Si Lucas Chevalier, il lui faut 1 an, 2 ans d'adaptation, parce que c'est comme ça.
Bon, tu crois vraiment qu'avec l'investissement que t'as fait, tu vas lui laisser 2 ans sur le banc?
Mais
tu rigoles.
Non, mais 2 ans sans jouer.
Mais regarde. Là, il a beaucoup.
Il sera parti aux oubliettes. On se rappellera même plus ni de son prénom ni de son nom.
Il a beaucoup joué depuis le début de l'année, donc arrêtez de le faire passer comme quelqu'un qui regarde les autres jouer. Mais je te dis juste que si Safonov, et moi je le crois pas forcément que Safonov il fasse les mêmes derniers 6 mois que Donnarumma, mais si Safonov il fait ça, ça veut dire qu'il est devenu monstrueux. Eh ben écoute, c'est normal que Safonov il joue et que Chevalier il s'incline. Et
au lieu de penser Chevalier vont repartir. Évidemment que c'est comme ça que ça va se passer.
Mais partir où?
Bah partir ailleurs, peu importe.
Il voudra
jouer Chevalier.
Mais vous croyez que quand vous signez dans un club comme le Paris Saint-Germain avec autant d'investissements, c'est pas facile, hein.
Mais
c'est
qui a dit que c'était facile?
Vous là, t'as l'impression que il doit. Alors vu qu'il jouera pas sur les 6 prochains mois,
il y en a qu'un seul qui joue.
Sur les 6 prochains mois, écoute Chevalier, il va demander à partir.
C'est un peu Karim parce qu'il va dans ton sens, Jérôme.
Vas-y Karim.
Salut Karim.
Bienvenue Karim.
Salut la team, salut. Et honnêtement, je comprends pas le débat.
Bah moi non plus, mais explique-le à Steve et Jean-Michel. Vas-y.
Où est le problème? Pourquoi on veut sauver le soldat Chevalier? Qu'est-ce qu'il a fait? À part le montant de son transfert.
Mais c'est pas ce qu'on a dit.
Parce que c'est un potentiel énorme et t'as investi dessus.
Attends, laissez parler Karim parce que c'est intéressant.
Laissez-moi. Ouais, je vous donne 2-3 informations.
Ouais.
La jurisprudence Enrique, elle a existé dans d'autres clubs. Il y a eu la jurisprudence Kepa que vous avez connue à Chelsea, qui a été payée, je crois, plus de 70 millions d'euros quand il est arrivé, si je me souviens bien.
Ouais.
Qui était censé être le top joueur. À Chelsea, il a été mauvais. Ils l'ont changé, ils ont mis quelqu'un d'autre. Moi, je vous le dis honnêtement, 55 millions d'euros, c'est pas la valeur de Chevalier. Chevalier, c'était le meilleur gardien du Pas-de-Calais.
Très bien, Karim.
Ils l'ont fait venir. Ça vaut 15 millions, 20 millions. Je pense qu'ils sont fait bananer, honnêtement. Oh. Ils ont fait partir le meilleur gardien du monde pour prendre le meilleur gardien du Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, il a eu sa chance.
C'est un peu excessif.
Franchement,
le Pas-de-Calais, c'est pas mal, ça.
Je vous le dis honnêtement, les gars, j'adore le PSG. Je suis pas spécialement un fan absolu de Gianluigi Donnarumma parce qu'il a fait des grosses,
des
grosses erreurs. Mais Chevalier, depuis le début de saison, c'est très, très mauvais. Sur 18 gardiens de Ligue 1, il est dans les 5 derniers.
C'est dur, Karim.
Franchement, Karim a raison. Sur les 6 premiers mois, les gars, ne me dites pas. Non, mais.
Non, qu'ils soient pas à la hauteur des standards du PSG. Oui, je suis d'accord.
Je pense qu'il sera jamais le top gardien qu'on espère qu'on a espéré. Voilà. Moi, j'ai jamais rien vu. Il a fait quelques bons matchs à Lille, mais c'est pas non plus extraordinaire. Safonov, c'est pas non plus top gardien mondial, mais c'est meilleur. Donc moi, je suis pragmatique.
Donc à t'écouter, faut le sacrifier. Faut sacrifier Chevalier sur qui t'as investi autant.
Chevalier, comme le dit Karim, il peut progresser et il doit progresser. De toute façon, quand tu prends Chevalier, le PSG, ils sont conscients. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est que s'il joue pas là sur la deuxième partie de saison, c'est problématique. Il demandera à partir. Il connaît le jeu. Ce que je veux dire, Chevalier et le PSG, ils savent que ils ont investi sur le long terme avec lui. Chevalier, ils l'ont pris. Je pense très honnêtement qu'ils ont été déçus de ses premiers matchs, et c'est pour ça qu'il a joué et qu'aujourd'hui il joue plus. Ils ont été déçus de la progression, mais elle peut arriver, la progression. Chevalier,
la progression peut revenir.
La preuve, Donnarumma te l'a montré. Donnarumma te l'a montré. Donnarumma, quand ils l'ont pris au Milan AC, d'accord, c'était un gardien qui devait encore progresser sur beaucoup de choses.
Mais c'était pire. Ouais, il est en concurrence avec Navas.
Il a gardien de l'Euro aussi.
C'est
pas le même niveau.
Attention, c'était pas au même niveau. Je suis d'accord avec toi, Steve. Sauf qu'il devait progresser sur beaucoup de points. D'accord.
Principalement le pied.
Les sorties aériennes aussi, il nous en a fait des belles.
Il fait 2 mètres,
il passe à côté.
C'était plutôt la prise de main.
On l'appelait tempête, tempête. Dès qu'il sortait, il passait à côté, il y avait un coup de vent. Mais ce que je veux dire, c'est que Donnarumma, il a pris son mal en patience. Ça n'a pas dû être facile, la preuve. Il s'en est plaint, même des critiques et de l'attitude du club à le mettre en concurrence. Il a joué, des fois, il a moins joué. Et puis après, il y a eu révélation sur les 6 derniers mois. Écoute, peut-être que Chevalier, il lui faudra un peu plus de temps que prévu pour reprendre sa place. Mais moi, j'y crois, Chevalier.
Merci à Karim.
Pas à ce niveau-là.
Tu fais confiance au meilleur gardien de l'histoire du Pas-de-Calais. Bravo, Jérôme. Merci, Karim. Et en tout cas, c'est un débat qui va nous animer pendant des semaines dans Rotten sans flamme. Dans un instant, on parle du Racing Club de Lens.
Va s'animer.
Il n'y a pas de débat. Du mercato d'hiver, l'arrivée d'Alan Saint-Maximin à Lens. Et on parlera quand même avec Jean-Michel de la nouvelle magie stéphanoise. Tu vires un entraîneur, mais tu le laisses pour le match du week-end. Eric Hollande, incroyable ce qui s'est passé à Saint-Etienne.
Non, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire.
Pardon, capitaine. Bon, on arrive. À tout de suite sur
RMC. RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC. On est là dans Rotten sans flamme. Et c'était bien enflammé sur le dernier sujet. Ah, ça a marché. Hein. Le sujet de Benoît Boutron, il est content. Il est content de sa cause.
Mais non, mais dès que je te vois tout rouge, je me dis que ça marche.
Steve Savidan. Ah ouais. On est là jusqu'à 20h. Il y aura le quiz pour nous détendre. Eh oui, pour gagner. Un super cadeau. Ouais. Ah oui, de Louis Gerbier.
Karim nous a dit quand même meilleur gardien du Pas-de-Calais quand même. Ça c'est la punchline du soir.
Alors que c'est du Nord, hein. Lille est dans le Nord, hein. Et pas dans le Pas-de-Calais.
19h45 le quiz. Carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett. Boîte à bijoux, boîte à montres. N'hésitez pas. 32-16. Donc pour vous inscrire pour le quiz de Rotten sans flamme. Allons-y justement pour la VAR de Rotten sans flamme. On va parler de Lens et de l'AS Saint-Etienne.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
C'est un joueur qui est différent, qui est capable de faire des différences individuellement. Et on a besoin de ce genre de joueur, étant donné qu'on va rencontrer des contextes de jeu qui vont ressembler à ça sur cette fin de saison. Les espaces vont se refermer un peu. Il sait aussi qu'il rentre dans un groupe qui fonctionne, qui pour l'instant a de bons résultats, qui a un niveau de relation humaine qui est de qualité, avec la volonté de s'imposer, puisque aujourd'hui il y a eu très peu de rotation dans cette équipe et c'est vrai que c'est un nouvel élément, donc j'attends de lui qu'il me montre qu'il doit jouer rapidement.
La VAR de Rotten sans flamme.
Donc Lens tente le pari, Alan Saint-Maximin, il a 28 ans, il est libre depuis son départ du Club América, c'est le 10e club de sa carrière. Un joueur qu'on a tous vu très bon parfois, hein, capable de fulgurance, on l'a vu très bon à Newcastle, on l'a vu bon parfois dans les clubs français dans lesquels il est passé. Il reste sur trois expériences un peu contrastées à Al Ahly, Fenerbahçe et au Club América. C'est un nouveau coup signé Jean-Louis Leca, hein, qu'il avait connu à Bastia, donc c'est pour lui et c'est lui qui le fait venir. Donc encore un beau travail du directeur sportif. Il arrive dans une équipe qui tourne bien. Lens est deuxième de Ligue 1. Lens est toujours engagé en Coupe de France. Et juste, il faut dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le club l'a fait d'ailleurs, parce que vous le savez qu'il a été victime d'insultes racistes. Sa famille en a été victime lorsqu'il était au Mexique. Ça a continué aujourd'hui sur les posts du RC Lens pour annoncer sa venue. Beaucoup de commentaires en espagnol sur les réseaux sociaux pour l'insulter. Donc ça, c'est à condamner. Le club l'a fait et il a bien fait. Est-ce que le
en espagnol ou un mexicain?
En espagnol, bah oui, écoute.
Oui, mais
c'est
ça venait du Mexique.
Ah, bah, oui, ça venait plutôt du Mexique. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher Saint-Maximin à la trêve pour le Racing Club de Lens, messieurs? Jérôme, est-ce que tu penses que c'est un bon pari tenté par les Lensois?
Écoute, je crois que Pierre Sage, il a tout dit. À lui de lui montrer qu'au quotidien, il est capable d'intégrer cette équipe et d'apporter un plus à cette équipe. Oui, il peut être déroutant, Alan, il n'y a pas de souci. On l'a vu plusieurs fois. Ce qu'il a pu faire, j'ai des images de lui. Alors il y a trois ans maintenant, c'était quand il était à Newcastle. Ouais, mais à Newcastle,
attention, c'est costaud. Hein.
Il a fait des très belles
Manu
choses.
Manu Petit était dit dithyrambique. Il voyait tous les matchs de PL. Ah, il disait, c'est un joueur fantastique.
Oui. La réalité, c'est que je pense qu'à Newcastle, c'était la seule fois de sa carrière que c'est arrivé. Il était tombé dans un club qui lui correspondait, avec un championnat qui lui correspondait aussi. Donc qui est pas facile la première ligue, et il a montré énormément de régularité, et donc c'est bien pour lui, pour sa carrière. Après, il a fait le choix financier. Est-ce que il avait vraiment le choix de rester à Newcastle? On lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il parte en Arabie Saoudite.
Mais il avait choisi aussi.
Après, c'est compliqué. Moi, je veux pas me mettre à sa place. Le problème, c'est que quand tu fais le choix financier, automatiquement, tu as des répercussions sur ton niveau. Et le niveau, il y a juste à constater. Il a baissé, ça fait 3 ans à Newcastle, hein, quand même.
Il a fait Al Ahly 30 matchs, Fenerbahçe 20 matchs, 16 matchs avec le club américain.
Et là, il est parti au Mexique, et là, il arrive. Alors après, l'état d'esprit, j'ai aucun doute. C'est un gentil mec,
bon mec, ouais.
qui va se fondre dans le collectif. Donc ça, c'est déjà une grande qualité pour Pierre Sage.
Il va peut-être aussi venir avec un petit peu d'humilité, je pense aussi.
De toute façon, il a pas le choix, Steve. Vu que c'est un bon mec, et que en plus, je pense que la relation, je suis sûr que la relation avec Jean-Louis Leca, elle est très bonne, elle est fusionnelle. Donc automatiquement, il a aussi des comptes à rendre par rapport à Jean-Louis qui lui a fait confiance. Donc je pense que ça, vu que c'est un gentil gamin, vraiment, je pense qu'il va se donner à fond. Après, est-ce qu'il aura la force mentale et physique de retrouver sa régularité
dans
de Newcastle?
Dans quel état il est physiquement? C'est le gros point d'interrogation.
Mais ils prennent pas de risque, c'est libre.
Si ça marche pas, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Vous êtes d'accord, tous les deux, Steve et Jean-Mi?
Ouais. Et puis il faut quand même noter que, franchement, ce qu'a manqué peut-être quand même un petit peu à Lens, si on pourrait dire qu'il a manqué quand même, c'est casser les verrous en fait. À un moment donné, c'est de débloquer des situations face à des blocs qui étaient quand même assez bas. Lui, il faut quand même lui accorder quand même cette grande qualité, c'est la vitesse d'exécution, la rapidité dans les dribbles, c'est d'aller vraiment tout le temps vers l'avant. Alors oui, il y aura sans doute du déchet dans le dernier geste, parce que ça a toujours été quand même un petit point à améliorer, mais il est là aussi pour travailler. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est quand même, moi je trouve, un super coup quand même pour Lens, qui dans la projection de l'avenir, parce qu'il faut peut-être pas insulter l'avenir non plus, mais s'ils ont une qualification européenne, bah tu te dis que là c'est un joueur quand même de classe européenne, voire même un petit peu plus, qui arrive dans cet effectif. Alors oui, avec
il
des passages peut-être
mois,
un peu plus
commun. Pour l'instant.
Oui, ouais, mais une fois que t'es dans le club, et... non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tu dis que s'il se sent bien, imagine t'as une belle qualification en Ligue des Champions, t'as une belle aventure avec le club, il se sent vraiment bien dans le groupe parce que le public l'ensoit, il aime, il déteste aussi, mais quand il aime, c'est surpuissant aussi. Moi, je me dis qu'un joueur comme ça qui s'est pas perdu, hein, qui a été chercher d'autres objectifs dans d'autres territoires du football, bah tu dis, il serait peut-être bien à Lens, si ça marche bien, il va être aimé, et puis bah c'est un bon, franchement c'est un super coup quand même au mercato. Alors c'est sûr que hein, Jean-Michel, je pense qu'il va nous dire, les mercato d'hiver, c'est rarement des bons coups, mais moi j'ai envie de me dire, j'ai envie d'y croire, Lens est dans une belle dynamique. Ouais. Hey, Pierre Sage,
ça fait 2-3 ans, il fait plus trop les. La une des journaux. C'est un joueur aussi fantastique que fantasque. J'adore ce gamin. J'adore ce gamin. Et qui a fait quand même se lever Saint James Park quand il était à Newcastle. N'oublie. Donc, on va dire que sur le plan.
Quel stade il est...
Saint James Park
Non, non, mais parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait lever celui-là.
Non, mais je m'attendais à tout sans bazar. Je croyais que j'avais fait une saucisse.
Non, mais elle est pour moi, Jean-Michel. C'est la disquette gratuite encore.
Mais ce garçon-là a démontré, et à Bastia aussi, qu'il avait des qualités bien au-dessus de la moyenne. Est-ce qu'il s'est pas un peu perdu? Si Jean-Louis Lecas le remet dans le droit chemin et qu'ils ont un deal.
C'est quoi le stade de Bastia déjà?
Fouriani.
Ah, celui-là aussi, je l'ai fait lever.
Oh, il va nous fatiguer là.
Bon, d'accord.
Ah, mais Jean-Michel, c'est intéressant, vas-y.
Non, mais je ne sais plus ce que je disais.
Bon, c'est pas grave.
Simplement. Comme l'a dit, je ne sais pas qui est-ce qu'il a dit, peut-être Jérôme, mais ça m'étonnerait. Qu'il ait dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il risquait rien puisqu'il était, libre. C'est toi. Bon, eh bien, écoute, je souhaite et je suis sûr qu'il va faire des choses intéressantes. Je suis sûr et certain.
Ah, ben voilà, le pari de Jean-Michel, tu penses que ça va marcher?
Du Racing, on va commencer à l'apprécier.
Alors, Jean-Mi, tu vas conserver la parole parce qu'on va donc parler de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 2 avec ton club de cœur.
On parle de la Ligue 2 maintenant, on va refaire l'histoire
dans l'ordre chronologique.
C'est Gerbier normalement qui parle de ça.
Il y a 6 jours, Eric Orneland, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, annonce à ses joueurs son départ. On cherche le successeur d'Orneland, on désigne Philippe Montagnier qui a été présenté d'ailleurs. Sauf qu'on dit à Orneland, Montagnier va arriver un peu tard, donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tu coaches le dernier match, là, samedi dernier, face à Boulogne-sur-Mer. Tu es viré, mais tu vas coacher le dernier match que finalement il a perdu 1-0 face à Boulogne. Il n'y a qu'à Saint-Etienne qu'on voit ça, Jean-Michel.
Non, il n'y a qu'à Saint-Etienne en ce moment, actuellement, parce que c'est. Mais il paraît que c'est la nouvelle façon de manager les clubs. Non, tu remues le couteau dans la plaie. J'ai abandonné à la 60e minute contre Boulogne. J'en pouvais plus. Il n'y a pas un bon joueur dans cette équipe de Saint-Etienne. Pas un bon joueur. Alors, j'ai regardé la cellule de recrutement. Je l'ai pas sous les yeux, la cellule de recrutement. Alors, ça vient d'Autriche, d'Allemagne, les recruteurs. C'est l'armée, puisqu'on en parlait, c'est l'armée mexicaine. J'en connais pas un. Il y en a pas un qui me connaisse, d'ailleurs, qui me connaît, d'ailleurs. Ça tombe bien. Et puis, à un moment donné, j'ai vu qu'il y en avait un qui s'appelait Ferreira. Dans la cellule de recrutement. Et qui est passé par Guimaraes. J'imagine qu'il doit être partie prenante dans le transfert du phénoménal João Ferreira, arrière droit de l'AS Saint-Etienne, qui sait pas où est l'avant et l'arrière d'un ballon. C'est quand même extraordinaire. Comment peut-on avoir recruté des joueurs comme ça? Il n'y a pas un bon joueur dans cette équipe. Je souhaite bien du plaisir à Montagnier, mais c'est une façon de travailler. Et je plains deux entités. D'abord, le président Tadembaum, qui donne de l'argent à une cellule de recrutement qui est nulle, c'est épouvantable. Et je plains les supporters de Saint-Étienne. Ouais. Moyenne au stade depuis le début de la saison, 30 000 spectateurs pour voir ce spectacle. Mais à un moment ou un autre, moi je veux bien que ce qui était fait avant, c'était nul, qu'on était nul, qu'il y a 50 ans, c'est tout à fait par hasard qu'on a été une année demi-finaliste de la Coupe d'Europe, qu'une année après on a été finaliste de la Coupe d'Europe. Je comprends bien qu'on était nul, que la nouvelle façon de fonctionner est formidable. Mais ils nous prennent pour des jambons. Ouais. Bon. Ils nous prennent pour des gens.
Et Arneland qui cause quand il est viré, ça te pose pas plus de problèmes que le reste, j'ai l'impression.
Mais c'est dans la droite ligne de ce qui se fait dans ce club. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de la part de la direction. C'est incompréhensible de la part de Arneland d'avoir accepté ça. Enfin, je sais pas, mais je dois être dans notre monde. Je dois être d'une autre galaxie, puisque ça se fait. Que personne ne dit rien, que ça passe crème et que le résultat est formidable puisque on a été battu par Boulogne dernier de la Ligue 2.
Et Saint-Étienne est cinquième de Ligue 2, mais avec toujours cet espoir.
Oui, avec 7 points de retard, je regarde plus le classement.
Bon, le coup de gueule est passé. Dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme avec Louis Gerbier, sa nouvelle coupe de cheveux qui est, disons, particulière. Vous la verrez sur les réseaux sociaux de Rotten sans flamme. On arrive dans un instant, ne bougez pas.
On tirera le nom de la coiffeuse parce qu'on la connaît.
Exactement. C'était un test, je pense. Bon, on verra ça. Quand on parle de ça dans un instant.
Louis, ce que t'as fait, c'est pas
quiz
bien.
Quiz tous contre Rotten. Jérôme face à Steve Savidan et Jean-Michel Larquet. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
10h46 sur RMC, on finit l'émission avec le moment qu'on adore tous. C'est le quiz de Louis Gerbier avec un super cadeau à vous faire gagner. Deux auditeurs qui vont venir jouer soit avec Jean-Michel Larquet et Steve Savidan, soit avec moi. Je suis tout seul, hein, je suis seul au monde. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver.
Allez, c'est parti.
RMC, tous contre Rotten.
Oui, j'ai gagné hier, Michel.
T'as gagné.
Louis Gerbier est là. Salut Louis.
Non, t'as pas gagné. Non,
t'as perdu.
Ah,
oui.
Ah, il a perdu hier.
Donc t'as perdu et vendredi et lundi. Oh là là.
Bah, il y a eu un petit camouflé en fin de quiz.
J'ai perdu hier. Ouais.
Mais ouais, oui,
c'est vrai. On l'avait fait à l'envers.
Oh, oui, c'est vrai. Parce que moi, le Russell Rowe, je l'aurais accepté.
Ah oui, Russell Rowe, c'était
non, bien. Notre producteur qu'on n'embrasse pas, Langevin.
Excellent, Nicolas Ledru.
Ouais.
Langevin s'est envolé.
Ah ouais, Langevin.
Steve, moi aussi, je suis Angevin. Qu'est-ce qui t'arrive?
C'est Angevin, toi?
Les Angevins. 49 représente la Rose Garonne.
Tchéga, frérot.
Avant de commencer ce quiz,
allez, mets-moi une suze.
Question à Louis Gerbier.
Une petite pente pastille.
Louis, qu'est-ce que t'as dit à la coiffeuse quand tu t'es présenté dans le salon de coiffure? Qu'est-ce que t'as dit là?
Je l'ai dit comme
qu'est-ce que tu veux?
Démerde-toi.
Ah d'accord.
Ouais. J'ai un projet.
Ça veut dire quoi?
Il mente parce que je veux dire.
C'est un peu fouillé sur le dessus.
Ouais, mais c'est coiffé, décoiffé. Tu vois, il y a un esprit.
Coiffé, décoiffé.
C'est vrai, alors, c'est un coiffé décoiffé. Ouais. Il est plus décoiffé que coiffé.
Une carte cadeau de 100 euros à Valois. Aussi. Chez Maison Scarlett ce soir. Vont s'affronter. Ça va rappeler de bons souvenirs à Jean-Michel. S'affrontent ce soir Christian et Jean-Pierre. Salut à vous deux.
Ah, Christian et Jean-Pierre.
Qu'est-ce que vous êtes
Salut Christian, Jean-Pierre.
Oui, Arsène.
Bonsoir.
Salut, capitaine.
Alors,
vous êtes tous les deux supporters de l'OM. Est-ce qu'il y en a un qui se défoue, qui se dévoue pour.
Jean-Pierre qui était très bon au commentaire du rugby.
Ah, bah oui, magnifique. Christian et Jean-Pierre, est-ce qu'il y en a un qui se dévoue pour jouer avec Jérôme?
Jean-Pierre, tu veux pas jouer avec Jérôme?
Bon,
allez, pas de
attends, c'est Christian qui me dit pas de soucis, on est d'accord.
Vous devriez faire un 50-50.
Jean-Pierre, allez, Jean-Pierre avec Jérôme et Christian.
Jean-Pierre,
avec le reste du monde.
Jean-Pierre.
Vas-y, Louis, c'est parti.
Allez, on va faire un thème sur le match du soir. OM, Stade Rennais. Qu'est-ce qu'il a là-haut? Qu'est-ce qui va pas? Alors, on va commencer avec une question flash. Quel ancien joueur des deux clubs a son fils dans l'effectif de Lorient?
Pagis.
Bravo.
Ouais, Mika, oui, Mika.
Exactement.
C'est bien de le dire après, Steve, mais on veut le dire avant.
Bah oui, mais Jérôme est plus rapide. Jérôme est plus rapide, il a les fiches réponses devant lui. Qu'est-ce que je te dis ?
Non, il n'y a pas de triche dans ce quiz, jamais.
Bon, 1-0 pour Jérôme.
La routine est installée. On verra ce qu'elle dira.
Question auditeur Grégoire Margoton.
Christian et Jean-Pierre.
Christian Jean-Pierre, quel joueur d'un des deux clubs, mais qui a joué dans les deux, a perdu la CAN en finale.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Mais c'est un...
Pardon ? Mais t'as bu, toi ?
Ok, ça va, on rigole. Quel joueur ?
Oh là là, attends.
D'un des deux clubs, mais qui joue encore dans un des deux.
Non, mais.
À Gerda.
C'est pas
là. Voilà.
Ah, t'as compris. Alors, qui a gagné ?
Non, mais j'avoue, elle était volontairement mal écrite pour que ça soit tendu.
Qui a dit Aguerre, Jean-Pierre ou Christian ?
C'est Christian.
Naïef Aguerre, bien sûr, qui a vécu un début d'année 2026 terrible.
T'as toujours pas compris la question.
Après le coiffeur, t'as fait quoi ?
T'as toujours pas compris. En fait, il joue dans un des deux clubs en question.
T'es allé au bistrot dans le 15e, là ?
Oui, juste à côté, là. J'ai dit, vous mettez ça sur la note de Jérôme. Il m'a dit, il n'y a pas de problème.
Bah là, elle va être grosse.
La croisée, question larquée, question con. Oh,
26-15, code de Kinover pour les jeunes Kinover.
Gerbier, t'es un truand.
Qu'est-ce que vous êtes con ?
RMC.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors ?
La question con.
Ah, la voix qu'il a. C'était con.
On cherche un joueur des années 70-80 passé par les deux clubs,
oh la vache,
l'OM et le Stade Rennais. Ce joueur, il ne peut être originaire que de Chamonix, Luz Saint-Sauveur ou encore du Mont d'Or.
Oula. Il doit y avoir du ski, non ?
Bah non, il y a une région.
Non.
Ou un département.
De la montagne ?
Oui !
De la montagne, il a joué en jeu aussi.
De la montagne.
Ah oui, c'est bien.
Je dis juste derrière toi, oui.
Eh ben on l'embrasse, Patrick.
Quel joueur ayant porté le brassard des deux clubs joue encore dans l'un des deux ?
Facile.
Oula.
Facile.
Rongier.
Oui.
Rongier.
Toujours ce 2 secondes de retard.
Et ça compte. T'as pas l'impression qu'il y a un délai.
Ah. Et la DSL n'est plus disponible. Normalement, t'as dû passer à la fibre.
Deux partout entre.
Quoi, Jérôme, que t'as dit ?
C'est peut-être le cerveau qui a un délai. Ouais.
Ouais, je t'en connais un délai tout à l'heure.
Allez, 2-2. Magnifique quiz.
Allez, tu sais que t'as de la chance.
Question flash.
Je serai déjà derrière en tranquille à bras, là. En mode soumission, là.
On reste sur le thème des capitaines.
Ah, les capitaines.
Quel ancien capitaine des deux équipes a aussi été capitaine des Bleus à deux reprises ?
Ah oui.
Ouh.
Ce qui fait autant qu'Éric Dimeco et une de moins que Jean-Michel.
Steve Mandanda.
Oui, bravo.
Mandanda.
Alors,
Steve
Mandanda.
Bon, quand même.
3-2 pour le reste du monde.
Attendez. Tu l'as dit juste après moi.
Ah oui, j'ai dit à toi. Et pourtant, dans la géographie,
oui.
Jean-Michel, t'es plus bas que moi.
Je sais pas.
Oh là là.
Allez, 3-2 pour le reste du monde.
Ah, ils sont devant.
Jérôme, t'es en train de te faire avoir. Ils sont en train de t'endormir.
Question pour le patron.
Ah. Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC. La question pour le patron.
Et je prends un joker.
Le Joker Kings League.
Et ça, c'est une dinguerie. Donc, on a le droit de prendre un joker sur une question pour le patron.
Écoute, il est malin. Il joue avec les règles.
Ah, il est malin.
Et vous dites rien.
Malin,
enfin,
bon, malin comme un singe.
Bah non, il faut qu'il gagne, le pauvre. C'est son émission.
Voilà, il y a la routette, t'inquiète pas.
Ah, okay,
c'est notre Lucas Chevalier à nous, Jérôme.
Moi, si je gagne pas, je lâche.
Allez.
Quel ancien coéquipier de Jérôme en bleu est non seulement passé par les deux clubs, mais formé à Rennes.
Hein ?
Ah, pas mal ça, bravo.
Formé à Rennes,
t'as joué avec lui en bleu, pour faire simple.
Il a joué avec lui en bleu.
À quelle période ?
Je crois.
Danzé
en
bleu.
Non.
Danzé en bleu.
Dans Zenoki.
Qui répond là
Mais non, tu peux répondre, Jean-Michel. Il n'y a pas que Jérôme qui répond.
Ah bon, je croyais que.
Alors, ça a compris la question ?
J'ai pas réfléchi. Oui, j'ai compris.
Alors, vas-y, répète.
Oui, bravo.
Ah ouais, mais vous dormez aussi. Oh là là.
J'allais commencer à parler pas d'elle.
C'est donc Jérôme Rotten qui reprend l'avantage. 4 à 3 pour Jérôme et Jean-Pierre.
Ouais, question s'avident.
Bah, c'est pas forcément Florichon un petit peu pour notre Ligue 1. Ah oui.
Voilà. C'est quoi la question s'avident déjà ?
Alors la question s'avident.
Moi je la connais.
Ah oui ?
Ouais.
Non, parce que en fait,
je
vais citer tous les clubs d'un joueur qui a fait dans sa carrière que des clubs pas hyper Florichon quoi. Florichon. Voilà.
Ah, comme Steve, quoi.
Ouais, voilà.
Ah, d'accord.
Pourquoi tu la rajoutes, ça, comme Steve, à la fin ? Tu la rajoutes à chaque fois.
Ah non, moi, j'ai rien dit.
Parce que... Non, mais je parle pas de toi, Jérôme, on parle pas que de toi, tu sais. Ah, ouais. Et toi, tu vas. Hey, hein.
Allez, on y va.
Ça fait partie du contrat, on y va.
Moi, surtout,
va,
je veux pas, moi.
On y va, Vous vous rappelez.
C'est la tienne, c'est pour toi, c'est pour toi, Steve.
Il est passé par Rennes et l'OM, donc il compte pas dans les clubs pas florichons, parce qu'ils sont un peu florichons, quand même. Allez. Gignac, oui. 3.
Gignac,
ouais. Gignac. Amiens, Valenciennes, Marseille, Rennes, Real Betis, Marseille, Rétafé, Alcorcon.
Kadir.
Oh là là, Fouette Kadir.
Incroyable, égalisation. 4 partout, bravo Steve.
Fouette Kadir, là, je l'avais pas.
Ouais, bah ouais, Kadir. Ouais, enfin bon.
Ah, la routine.
Ah, c'est bizarre.
Plus 8.
Répond pour Jérôme.
Non mais un regard noir, c'est moi qui donne la victoire à Jérôme.
Je te jure, tu prends la bouteille.
Mais quel numéro
non, mais attends,
sauf si je ne l'ai pas.
J'ai pas de culture foot, moi, j'en sais rien.
Question Tirandi Compte.
Ah, Tirandi Compte.
Là, il arrive. Il était avec toi au bistrot.
Ouais, bah, on était tous les deux. On a
tu te dis compte si tu poses une question à un supporter italien qui est dans quel qui est cette plus forte ?
Qu'est-ce qu'elle t'a plus forte ?
Benoît, tu es prêt ?
Et je suis prêt.
Quel joueur passé par les deux clubs a appartenu 4 ans à l'Inter au début des années 2000 ?
Oh, facile. 4 ans à l'Inter.
Qui est le plus forte ? Attends, j'hésite entre deux. Qui est le plus forte ? Stéphane Dalmat.
Bonne réponse. Le joueur formé à la Berrichonne de Châteauroux.
Bravo Jérôme, on les a bien eus. On les a bien eus. Jean-Michel Estier, crac.
À la déchetée, hop. Et bon match. Les deux, ils ont coupé.
Paris-Bordeaux-Le Mans.
Sans déconner, mais c'est une saucisse. Tu sors l'Inter, mais attends, Paris. Non, mais sans déconner.
Victoire de Jean-Pierre qui remporte ce magnifique.
Salut Jean-Pierre.
Tous contre Rotten sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Jean-Michel, il a coupé la machine. Il ne lui même pas au revoir. Quoi.
C'est dingue. Quel mauvais
merci
joueur.
Louis Gerbier. Bah, merci quand même à Jean-Michel. Hein. Bah, on la fin de l'émission.
Merci à Louis pour la coiffure.
Exactement.
Merci
à Stevie. Et dans un instant, l'After Live avec Jean-Louis Tour. Marseille-Rennes ce soir, 8e de finale de Coupe de France.
Restez à l'écoute des RMC. C'est là que ça se passe. Et demain, dans Rotten sans flamme, le débrief. Vous saurez tout sur les rencontres du soir. Il y a Reims qui joue ce soir. Il y a l'Olympique de Marseille ce soir contre Rennes. Écoute, on va se régaler. Et nous, demain à 18h aussi dans Rotten sans flamme. À demain. Bonne soirée. Bisous.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.